Réveil tous les matins, c'est 6h. La gym à 7h. Balade du chien à 7h45. 8h30 devant l'ordinateur. Et c'est ça tous les jours.
Elle est la coach sportive la plus influente en France. On a été plusieurs centaines de milliers à suivre ses cours pendant le confinement. J'accueille Cici Mua sur InPower cette semaine.
On est souvent nombreuses à commencer pour les mauvaises raisons et à continuer pour les bonnes. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un projet qui fait sens en fait. Il ne faut pas 20 millions de trucs, on prend un papier et on pose des idées.
De nombreux clichés persistent autour du monde de l'influence. Pourtant, Cici nous montre qu'elle n'a rien à envier aux plus grands entrepreneurs.
T'as quand même une assise qui est inégalée.
Tu n'es pas chef d'entreprise, tu n'es pas patron et ça s'apprend, ça s'acquiert et ça se travaille. Mais c'est indéniablement la partie la plus difficile du job. En tout cas pour moi.
Comment transformer sa passion en business viable? Quelles erreurs Cici aurait-elle préféré éviter? Comment est-elle parvenue à construire un empire?
Être entrepreneur, finalement, c'est savoir gérer les galères, savoir rebondir, parce qu'un jour, une galère.
Comment tu fais plutôt pour ne pas avoir le sentiment de bâcler?
C'est dur. Et là, on s'est dit qu'on va faire.
Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter le contenu d'InPower ou s'il vous a déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cici Mua.
Bonjour Cici.
Hello Louise.
Bienvenue sur InPower. Je suis très contente de te recevoir. On se le disait, mais je regarderai sur WhatsApp, on mettra à l'écran. Le premier message que je t'ai envoyé, je pense que ça doit être...
Je pense que ça fait au moins un an.
Ouais, ça fait au moins un an, voire deux. Donc écoute, tout vient à point à qui sait t'attendre.
C'est vrai.
Il y a plein de choses dont j'ai envie de parler avec toi, parce que je pense qu'on te... Enfin, on est beaucoup à te connaître, voilà, pour la partie sportive, pour la partie création de contenu, pour voilà, le fait que tu sois sur les réseaux depuis plus de 10 ans. Mais t'as aussi toute une aventure entrepreneuriale derrière toi maintenant qui est vraiment impressionnante. Et j'y pensais, je me dis, il y a peu de créateurs de contenu qui ont réussi à ce point-là à associer leurs réseaux sociaux avec un business qui fasse aussi sens en fait. Tu vois, c'est certains, on a des marques à côté ou des business à côté, mais toi, je trouve que c'est genre hyper cohérent, c'est hyper lié à tout ce que tu as construit jusqu'ici.
C'est gentil.
Voilà, donc on a un beau programme devant nous, on a des céréales si on a faim.
Trop bien.
Et avant de rentrer dans le dur, est-ce que pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Oui, donc je suis Cici, je vis dans le sud et je suis sur les réseaux sociaux depuis mes 18 ans. Donc ouais. Ça fait, je devrais peut-être pas le dire, mais ça fait 14 ans. Donc voilà, je fais partie vraiment de la toute première génération, si on peut dire ça comme ça, avec les pages Facebook, puis la page YouTube, Instagram, Snapchat à l'époque et TikTok aujourd'hui. Et depuis quelques années, donc j'ai créé mon application, donc Train Sweat It, que j'ai cofondée avec mon chéri. Et nous avons aujourd'hui deux autres business qui sont un business donc d'activewear et de compléments alimentaires, donc pour les sportifs.
Ok, hyper intéressant. Écoute, la première question que je me pose par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est, tu t'es pas lassé? Ça fait 14 ans que t'es sur les réseaux. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas, j'ai donné, quoi? Ce rythme effréné, cette omniprésence quotidienne, j'en peux plus.
Alors, je me le suis pas dit à cause des réseaux, mais c'est vrai qu'à ce jour, je suis quand même moins active que j'ai pu l'être, tout simplement à cause en fait du business. Du coup, j'arrive pas à faire les deux à 100%, ça c'est clair. Donc, je suis moins présente que je l'ai été par le passé. J'aimerais l'être plus, mais quand il y a un choix à faire, c'est une question de priorité. Ouais. Et les réseaux, ça serait un petit peu un second temps aussi, parce que finalement, le business, c'est quelque chose qui est excitant aujourd'hui, qui est nouveau pour nous. Ça fait 5 ans qu'on est dedans. Contre 14, bientôt 15 pour les réseaux. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais j'aime toujours les réseaux de la façon dont j'aime le consommer, en tout cas.
Ouais.
Ouais.
Et t'as réussi, du coup, à te détacher de, on va dire, la moindre performance qui vient du fait d'être moins présente. Parce que c'est un vrai sujet pour les créateurs, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est beau et fourbe à la fois avec les réseaux, c'est you get what you give. Donc, plus t'en donnes, plus tu reçois. Moins t'en donnes, moins tu reçois.
C'est très vrai. Et je pense qu'on connaît tous des hauts, des bas sur les réseaux. Enfin, rares sont ceux qui connaissent la pente, on va dire, exponentielle sans fin, quoi. Moi, j'en ai connu avec des périodes où j'ai grimpé de manière exponentielle, des périodes où ça s'est ralenti, ça a regrimpé avec le confinement. Ça a été, on va dire, deuxième
l'apogée,
tsunami.
Quoi. Ouais, ouais.
Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus pareil qu'il y a 3 ans. Forcément, j'ai doublé mon nombre de followers en l'espace d'un an, quoi. À ce jour, c'est vrai que comme je poste moins, comme tu le disais exactement, la progression, c'est plus la même. Mais je pense avoir réussi à relativiser un petit peu, parce qu'aujourd'hui, mon attention et mon focus, il est ailleurs, finalement. C'est vrai que je m'intéresse plus, finalement, à la, on va dire, à l'expansion de mon entreprise, de mes entreprises, plutôt qu'à celle de mes réseaux. Ouais. Il y a un petit peu un temps pour tout, même si c'est vrai que j'adorerais continuer à doubler mes abonnés.
Chaque année.
Chaque année, ça serait fantastique. Mais disons que voilà, j'ai un petit peu pris du recul là-dessus. Mais par contre, ça peut être carrément ultra anxiogène. Ça a pu l'être par le passé quand on voit, voilà, les algorithmes qui changent ou tout simplement la communauté peut-être qui s'intéresse un petit peu moins à ce qu'on peut proposer, mais d'avoir un autre challenge en parallèle, ben toi j'en parlais énormément avec Tini, donc mon copain, je lui disais c'est quelque chose qui aide aussi finalement à faire un petit peu une transition des réseaux sociaux,
ouais.
Et peut-être que si je l'avais pas, tu vois la chose aurait été différente, c'est fort possible. Ouais.
Mais est-ce que du coup ça ne te manque pas ce que tu faisais avant, enfin tu vois je me demande qu'est-ce qui a fait que tu as autant aimé partager du contenu sur les réseaux.
Ah,
qu'est-ce qui te plaisait dans, j'aime cette
toujours,
création.
Mais c'est vrai que j'ai adoré ça quand j'ai commencé. Moi, je suis tombée sur une vidéo YouTube en 2008 où je cherchais une coiffure, mais sur Google, hein, pour comment faire, n'importe quoi, faire peut-être des tresses plaquées, j'en sais rien. Et je suis tombée sur un tutoriel. Et j'ai trouvé ça super cool. Et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tous ces réseaux. Il y avait des pages Facebook avec des concepts. Il y avait quelques créateurs de contenu sur YouTube, mais très peu. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans, en fait. Et j'ai commencé par une page Facebook à l'époque. Et j'ai adoré partager et échanger avec des filles. À la base, c'était même communautaire, finalement. C'était, entre guillemets, c'était pas moi la star. C'était vraiment une page où chacune donnait ses conseils et autres. Et je pense que c'est vraiment...
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Vraiment, pour le coup, le partage, plus que la création finalement de ma propre vie à l'époque, qui m'a séduite. Et c'est vrai que j'ai cessé depuis 14 ans de kiffer ça. Et j'aime toujours autant aujourd'hui. Mais c'est d'une façon peut-être un petit peu différente.
C'est une vraie question que je me pose en fait. Est-ce que nos goûts évoluent? Enfin, oui, mais c'est tu sûr. Vois, est-ce ouais. que... parce qu'en fait, le risque, parfois, c'est quand on est lancé malgré nous dans une nouvelle aventure et on réalise finalement en cours de route que c'est pas forcément ce qu'on aime faire au quotidien. Et donc, je me demande vraiment, et souvent, j'ai l'impression que les meilleurs indicateurs, c'est un peu ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant, les activités dans lesquelles on s'épanouissait. Et donc, je me demande vraiment, est-ce que il faut faire en sorte de retrouver ces activités-là dans son quotidien, dans notre dans notre vie professionnelle. Ou est-ce que finalement il y a pas ce tempérament ou on va dire cette nature et chaque année on peut se développer une nouvelle passion pour tu vois un nouveau projet, un nouveau business, des nouvelles compétences. Tu vois ce que
moi,
je veux dire ou pas?
Mes passions n'ont pas beaucoup évolué. Pour le coup.
C'est vrai, ça, tu vas nous en parler aussi. Ouais. Le sport, c'est dans ta vie depuis... C'est fou, ça.
Depuis longtemps. Et, ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, bon, sinon, à part le sport, les réseaux, c'est quoi tes passions? Bah, en fait, non, je fais pas de la peinture. J'aime bien lire, mais je suis pas non plus, tu vois, ouais, je lis pas 15 livres par mois. Donc c'est vrai que voilà, les passions ont pas beaucoup changé. Mais par contre, oui, elles évoluent et elles mûrissent.
Ouais.
Je pense. Pareil, ouais. La création de contenu, c'est quelque chose que j'ai aimé faire, puisque j'ai commencé à une époque, comme beaucoup de ma génération, où c'était pas un objectif, c'était pas rémunéré, c'était pas un travail, c'était vraiment, c'était en fait une activité, j'ai presque envie de dire. Moi, j'étais étudiante à l'époque, je faisais ça le dimanche, ça allait toujours aujourd'hui, mais plus de la même façon. Quand je regarde ce que je partageais à l'époque, tu sais, on se dit toujours, les jeunes sur TikTok, voilà, ce soit. Mais moi, je regarde ce que je partageais il y a 14 ans, c'est pareil, je me dis, mais aujourd'hui, je repartagerai plus du tout ce genre de contenu, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc le fond est toujours là, mais plus de la même façon, quoi.
Et qu'est-ce que... Parce qu'en plus, tes études, c'était donc en ingénierie, j'ai vu, agroalimentaire.
Oui.
Rien à voir. Qu'est-ce qui te bottait, toi, en fait? Tu vois, tu sors de ton lycée, tu passes le bac. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Ben moi, en fait, j'ai déménagé parce que j'étais dans le sud de la France et mon école d'ingénieur était dans l'Oise, précisément. Donc, relativement loin. Donc, quand je suis arrivée en 2008, c'est l'année où j'ai commencé mon école d'ingé, je connaissais personne. Donc, j'avais pas beaucoup de copines, pas beaucoup d'amis. Donc, les liens ont mis un petit peu de temps quand même à se créer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis retrouvée sur YouTube parce que finalement, ça a été un petit peu mon passe-temps, ça a été un petit peu mon activité à côté. Et puis, il y avait ce côté très social qui a peut-être compensé aussi un manque de relations dans la vraie vie. Et je pense que c'est ce qui a peut-être motivé beaucoup de créateurs, en tout cas de cette génération-là, où on a retrouvé finalement sur Internet ce qui nous manquait au quotidien, quoi. Et moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées à l'époque, il y en a quelques-unes, avec qui je parle encore aujourd'hui et qui sont devenues des copines ou des amis relativement proches. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'a été au début des réseaux. Donc ça a été aussi quelque chose qui finalement qui m'a plu et qui a fait que je suis sur les réseaux 14 ans après, quoi. Ouais.
Du coup, qu'est-ce que tu étudiais précisément et quel renoncement finalement y a-t-il eu quand même dans cette carrière dans laquelle tu te projetais?
Alors moi, j'ai fait des études en biologie et j'ai pris une spécialité en agroalimentaire et nutrition. Donc, quand je suis arrivée en école d'ingé, j'avais pas de filiale, donc de spécialité. C'est quelque chose qui s'est un petit peu dessiné au fur et à mesure du temps parce que j'ai toujours été passionnée. Alors à l'époque, c'était la cuisine. J'adorais cuisiner. Ouais. Donc,
c'est toujours un peu le cas.
C'est toujours le cas. et c'est un petit peu ça qui m'a motivée à aller dans cette voie-là, finalement. Ouais. Alors que la bio, en plus de toutes les matières scientifiques, c'est celle où j'étais la moins bonne. Donc, je sais pas si c'était un bon choix, mais voilà, ça a été un choix de cœur, on va dire. Ouais. Et lorsque j'ai terminé mes études, donc j'étais toujours sur les réseaux, c'était 6 ans plus tard pour le coup. Donc j'avais déjà 6 ans de réseaux sociaux derrière moi et j'ai commencé à chercher du travail. Et finalement, je crois beaucoup, tu vois, un petit peu au destin. Enfin, je suis pas croyante en grand chose, mais je me dis que finalement, les histoires, elles se dessinent quand on veut bien un petit peu écouter le hasard qui fait parfois bien les choses. En ce qui me concerne, je suis sortie d'école chercher du boulot. Évidemment, comme beaucoup de jeunes, je ne le trouve pas en un claquement de doigts. Donc, je cherche, je postule, j'envoie des CV, etc.
Et tu voulais faire quoi?
Moi, je voulais faire de la création culinaire. D'accord. Donc, je voulais travailler dans des boîtes pour créer des recettes, produits, exactement.
Ok.
Et à ce moment-là, en fait, ça a été un petit peu, on va dire, un virage dans mes réseaux sociaux. Ça a été le moment donné où, on va dire, le décollage s'est un petit peu accéléré, quoi.
Ah ouais, bon timing.
Bon timing, exactement. Et là, je dis à mes parents, ça commençait à me gaver. Hein, je dis sincèrement d'envoyer 10 CV tous les jours. Je dis, je vais peut-être tenter de me dédier à YouTube. À l'époque, je gagnais un petit peu ma vie grâce aux rémunérations YouTube uniquement. Il n'y avait même pas de partenariat. Donc, c'était des petits salaires. Moi, je comptais un petit peu à la fin du mois. Ça me faisait mini SMIC. Je me disais, il y a de quoi vivre. Donc, ça vaut le coup de tenter, quoi. Pas me retrouver à la rue non plus, j'étais pas complètement folle.
Ouais, t'étais responsable.
J'essayais de l'être. Ma mère s'est dit, après 6 ans d'études à l'autre bout du monde, où j'ai payé le logement, l'école, bof bof comme choix.
T'es allée au Brésil, c'est ça?
Oui, j'ai été au Brésil aussi au milieu. Donc pas mal de petits voyages et autres qui ont quand même coûté un peu d'argent à mes parents. Mais ils m'ont laissé faire, tu vois. Ils ont pas été insistants ni dans un sens ni dans l'autre. Ils m'ont pas mis la pression. Et l'histoire a voulu que c'était un bon choix, quoi.
Et alors, ça ressemble quoi, tes premiers jours en tant que créatrice de contenu full-time?
Sincèrement, ça n'a pas énormément changé par rapport à quand je ne l'étais pas, parce que je faisais mes vidéos le week-end et je faisais mes montages tous les soirs. Donc, quand je sortais, c'était par exemple stage de fin d'études, je sortais d'entreprise, il devait être 18h. Je mangeais rapidement et puis je restais, je m'en souviens, jusqu'à parfois 1h du matin. Parce qu'à l'époque, j'ai jamais été aussi active que quand je travaillais. Tu vois, je postais 2 vidéos par semaine, j'étais tous les jours sur Instagram. Donc, j'avais vraiment beaucoup de taf, clairement. Donc finalement, mes journées ont été remplies par la création de contenu, mais ça n'a pas révolutionné mon quotidien, tu vois. Je me levais tout le matin, je travaillais, je faisais mes vidéos, mes montages.
Et solo?
Oui, solo.
Pendant combien de temps t'as été solo?
Longtemps, puisque j'ai été entourée... d'un vidéaste uniquement pour mes bikini XCC, donc c'était mes programmes de sport, ça allait toujours au mois d'avril. Donc tu vois, c'était pas toute l'année, c'était un mois. Et ça a commencé, je pense, vers, je me rappelle plus le timing exact, mais peut-être 2015, 2016, un truc comme ça. Et vidéaste pour mes réseaux sociaux, ça doit dater d'il y a 3 ans, quoi.
Ouais.
Tu vois, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a été très tardif, et c'est peut-être aussi ce qui a contribué, malgré la charge de travail au succès, je pense, de mes réseaux, parce qu'au final, bah, j'ai fait le contenu, je l'ai créé, je l'ai monté et il m'a ressemblé. Donc finalement, je l'ai façonné exactement de la façon dont je voulais. C'est l'avantage quand on fait tout soi-même.
Ouais, ça pose un vrai dilemme, hein, parce que d'un côté, il y a quand même l'argument de à plus, on va plus loin, tu vois.
Oui.
Et ce qui est vrai. Oui. Donc y en a qui arrivent à déléguer très vite. Enfin, tu vois, je pense à Hugo Décrypte, voilà, qui était un camarade de classe. Donc j'ai vu que lui, sa stratégie, entre guillemets, c'était plus de assez vite avoir des personnes pour écrire des vidéos, pour produire plus de vidéos, etc. Et,
ouais. Et très présent aussi.
Ça s'est avéré hyper, ouais. Tu vois, efficace.
Ouais.
Alors qu'en effet, d'autres se disent bah non, j'ai envie que ça soit le plus authentique possible. Ouais. Et c'est vrai que quand on. En fait, on ne se rend pas compte, mais un contenu qui est imaginé, réalisé, produit par une seule et même personne, bah, à la fin, nous ressemble beaucoup plus parce que c'est la vision qu'on avait, quoi.
Et totalement. Moi, aujourd'hui, la seule chose que j'ai déléguée, du coup, c'est effectivement le montage de mes vidéos. Bon, avec la même personne avec laquelle je travaille depuis des années. Donc aujourd'hui, on se connaît bien dans le travail, en tout cas. Mais pour autant, à chaque fois que je valide une vidéo après 2-3 allers-retours de montage, il y a toujours des choses que je n'aurais pas fait comme ça.
Ouais.
Mais j'accepte parce que j'ai pas le choix.
C'est un quelques coups avantage.
Voilà. Et malgré tout, même comme ça, des vidéos, j'arrive même plus à en poster toutes les semaines, tu vois. Donc si je devais les monter moi-même, autant te dire que j'en posterais pas beaucoup.
Ouais, c'est clair.
Mais par contre, tu vois, Instagram ou TikTok, je monte toutes mes vidéos TikTok, je réponds moi-même à mes commentaires, j'ai pas de modérateur, j'ai personne qui poste pour moi le soir. Bah, si je suis au bureau dans une réunion et que l'heure passe, tant pis, j'ai pas posté.
Ouais.
Mais c'est aussi ce qui me fait plaisir. Tu vois, je le vois pas comme le même business que mon entreprise. Je pense que si un jour j'ai quelqu'un qui répond à mes abonnés et qui écrit à ma place, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'aurais perdu la passion du truc, tu vois.
Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, il n'y a personne d'autre qui a mon mot de passe, tu vois.
Genre,
même ma sœur jumelle.
Ouais, c'est vrai, moi c'est pareil.
Tu te dis genre, je sais pas, c'est toi, c'est trop perso.
C'est
mais,
ton bébé, ouais.
Mais donc du coup, tu conseillerais aux personnes qui se lancent sur les réseaux finalement de faire le plus possible eux-mêmes le contenu le plus longtemps possible?
Je sais pas, tu vois, parce que moi c'est ce que j'ai fait finalement, mais comme tu dis, il y en a qui ont adopté d'autres stratégies et qui marcheraient bien aujourd'hui. Ouais. Moi, si j'arrive plus à suivre la cadence, entre guillemets, c'est parce que je suis encore toute seule là-dessus,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Alors que si j'avais deux personnes qui postent pour moi sur tous mes réseaux, je serais certainement beaucoup plus régulière et ça serait peut-être finalement plus efficace. Donc
il y a pas de recette. Non, c'est vrai, en effet, je pense que ça dépend comment tu le projette, c'est-à-dire que Hugo, ça reste finalement un média.
C'est un média. C'est
alors
différent.
Que nous, ce qu'on fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus incarné.
C'est ta personnalité.
Et ouais, c'est une plateforme perso.
Totalement. Ouais.
Mais du coup, ouais, pour revenir à ces premières années, du coup, en tant que créatrice de contenu, quels sont les... Tu vois, est-ce que tu arrives à identifier finalement ce qui fait ta valeur ajoutée? Est-ce que tu essayes de te concentrer là-dessus? Tu vois, est-ce que tu as une réflexion consciente de j'ai envie d'approcher les choses comme ça, est-ce que voilà, j'ai envie de me distinguer de ce que font les autres, ou alors tu vas au feeling, enfin, comment est-ce que tu imagines un peu à ce moment-là ta création de contenu?
Alors elle n'a jamais été véritablement calculée, je pense que j'ai réussi à identifier évidemment au bout de des années ce qui fait que ça marchait ou pas, a priori plutôt marché, donc je l'ai compris et c'est vrai que je pense que c'est finalement, on va dire l'authenticité, mais comme pour je pense tous ceux qui réussissent finalement, c'est que les gens adhèrent à l'état d'esprit, à la personnalité, à notre façon d'exprimer les choses, de communiquer avec la communauté. Et en ce qui concerne vraiment le domaine du sport, je pense que les gens ont aimé finalement retrouver dans mon contenu la facilité. C'est vrai que dans le fitness, à l'époque en tout cas, il y avait beaucoup de créateurs de contenu ou de coach fitness qui rendaient la chose un peu mystérieuse, un peu compliquée, inaccessible. Alors que moi, j'ai toujours voulu au contraire le rendre accessible. Donc j'ai essayé de démocratiser le fitness, de le rendre fun, de le rendre sympa et de donner envie aux gens de le faire, non pas en leur disant si t'as pas fini ta séance, excusez-moi le terme, mais c'est que t'es une merde.
Ouais.
Non, au contraire, je vais essayer de t'amener parce que tu vas rigoler, que tu vas t'amuser. Et ça s'est un peu confirmé, je dirais, pendant le confinement. Quand j'ai, malgré moi, constaté la réussite de mes lives, je me suis dit, en fait, les lives, c'était n'importe quoi. Mais on rigolait, tu vois. Et je me suis dit, en fait, les gens, ils ont aimé rigoler.
Mmh.
Et ça a influencé aussi ma façon de coacher sur TSE, donc Train Soit-il, l'application, où au début, j'avais une approche avant les lives, puisqu'on a lancé l'app en 2019, un petit peu plus protocolaire. Et finalement, je me suis dit, ben non, tu vois, pour reprendre une célèbre formule, les gens veulent du vrai, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a plu en partie, à mon audience, en tout cas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est hyper intéressant de voir que même, en effet, dans un cadre plus pro, tu vois, au-delà de toi, ta plateforme, que même sur TSE, ça se soit ressenti et que c'est ce pourquoi les gens ont adhéré. Est-ce que toi, t'avais des rôles modèles à l'époque ? Tu vois, encore une fois, dans ces premières années, est-ce qu'il y a des personnes que tu regardais en te disant waouh, ce que cette personne a accompli, c'est franchement inspirant ?
Alors, j'avais des filles que j'aimais suivre à l'étranger, mais plus dans le domaine du fitness, donc sportivement parlant, qui m'inspiraient, des brésiliennes notamment. Mais c'est vrai qu'en termes de réussite ou d'accomplissement, moins, je pense que c'était quelque chose qui se faisait moins aussi à l'époque.
C'est vrai. Les femmes étaient moins visibilisées,
Bah oui, il n'y avait pas beaucoup de visibilité, c'était pas courant. C'est quelque chose qui a quand même fleuri ces dernières années, parce que aussi peut-être que finalement c'est toute une génération qui a mûri et qui a enfin entrepris. Et ça donne peut-être aujourd'hui l'exemple aux plus jeunes qui se posent moins la question. Moi, j'ai mis énormément de temps à finalement commencer ne serait-ce qu'à monétiser ce que je faisais, puisque Train Sweat It, ça a été le premier service que j'ai fait payer, alors que j'en étais à l'époque, j'avais fait 6 ou 7 programmes gratuits, tu vois. Donc j'ai mis beaucoup de temps à mûrir ça, et aujourd'hui par contre j'aime beaucoup consulter le contenu de gens justement qui gravitent dans le fitness, beaucoup d'étrangers aussi, et qui font des choses qui m'inspirent. Et au lieu de me dire oh là là, mais moi je fais pas ci ou je fais pas ça, j'aime au contraire en tirer un peu des bonnes idées, une inspiration et autres. Mais c'est vrai que par contre j'essaye quand même, en tout cas en ce qui est francophone, de pas porter trop d'attention à ce que fait on va l'appeler comme salé, finalement, la concurrence. Parce que j'ai pas envie de faire la même chose, et surtout, j'ai pas envie de ressentir ce stress ou cette pression. Me dire, un tel a fait ça, moi je l'ai pas fait. Je veux pas rentrer là-dedans. Donc je cherche plutôt une inspiration positive, on va dire.
Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, et je me demande, finalement, quand même, si c'est pas le privilège du premier. Parce qu'aujourd'hui, t'es quand même tu domines ce milieu-là. Je pense que les personnes qui sont dans, tu vois, les numéros 2, les numéros 3, les numéros 4, ils peuvent que regarder vers le dessus en se disant « j'ai envie d'atteindre ça ». Alors que quand on y est, mais c'est un challenge aussi, on doit entre guillemets y rester. Mais alors c'est vrai que moi, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que personne d'autre n'émergeait. Alors c'est un peu exagéré, il y a d'autres... créateur de contenu dans le fitness,
oui,
qui sont entrepreneurs, mais
je
veux dire, t'as quand même une assise qui est inégalée. Et quand je regarde, par exemple, le marché du Royaume-Uni, où je connais pas mal de créatrices de contenu dans le fitness, beaucoup, elles se partagent vraiment le marché, quoi. Il y a beaucoup d'apps, beaucoup de programmes, elles sont toutes très suivies, et du coup, elles sont beaucoup en concurrence. De l'extérieur, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, il y a TSE et puis voilà. Enfin,
écoute, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous si c'est l'impression qu'on donne. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'on jouait. Déjà, le fait finalement qu'on soit pionnier dans le timing, puisqu'on a lancé le projet en 2018, il est sorti vraiment pour le public début 2019. Donc ça a été quand même bien en amont de l'émergence de la plupart des applications. À cette époque-là, c'est Tilly, pour le coup, qui a voulu lancer le format abonnement, application, etc. Et pour être honnête, moi, je lui ai dit, mais c'est bizarre. À l'époque, on vendait des PDF en 2018.
Oui, c'est ça. Des e-books.
Des e-books.
Highlightsiness.
Absolument.
Tout ça,
tout à fait. Et je trouvais ça bizarre comme format. Et je lui ai dit, ah bon? Et lui, tu vois, il était déjà dans le modèle Netflix, etc. Et moi, je n'étais même pas convaincue que ça marche, tu vois. Et pour autant, je pense que c'est ce qui a aussi contribué au succès aujourd'hui de TSE. C'est que finalement, à cette époque-là, quand... les applications se sont démocratisées, la nôtre elle était déjà avancée, elle était déjà aboutie, le modèle était rodé, on avait déjà un an et demi d'expérience, et l'audience qui a accroché finalement aussi en grande partie à la période des lives, ma personnalité l'a retrouvée chez Train Sweat It. Donc encore une fois, je pense que on a su se créer les opportunités, et puis les étoiles étaient aussi bien alignées, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une longueur d'avance, et puis en effet une incarnation. Parce que à l'époque, je me souviens, moi, j'ai déjà utilisé l'appli Nike Training Club, un truc comme ça, mais ils n'ont jamais réussi, je crois, à vraiment s'imposer. Tu vois, c'est un truc que les gens peuvent peut-être avoir en backup sur leur tel, mais Il y a beaucoup moins ce côté récurrence que vous avez réussi à créer.
En fait, je pense qu'il y a plein d'apps hein, qui marchent bien à l'étranger, etc. Mais il y a moins ce côté communautaire. Ouais. C'est-à-dire que moi, des apps, bien, j'en ai testé, hein, voilà, à l'étranger ou en France, etc. Mais tu viens, tu fais un cours et puis terminé. C'est vrai que chez TSE, on a en fait une longévité des clients qui est super grande. Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent, et ils payent pas tous les mois sans faire l'application. Il y en a évidemment, mais disons qu'à un moment donné, ils peuvent résilier quand ils veulent. Donc, s'ils restent, c'est que ça leur fait plaisir. Et ce côté vraiment communauté et famille TSE, je pense que c'est ce qui les retient longtemps. On leur donne le goût du sport. Et j'ai rencontré, lors de, voilà, de rencontres, meet-up et autres, des milliers de gens. Et il y en a plein qui m'ont dit, bah, tu vois, si, avant toi, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Et des fois, c'est des femmes de 50 ans, tu vois. Et elles me disent, et depuis le confinement, ou depuis les lives, ou depuis TSE, bah, j'ai plus jamais arrêté. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence avec le reste. C'est qu'on réussit, j'espère en tout cas, à leur donner le goût du sport au travers de good vibes, au travers de bonnes valeurs, au travers d'une bonne source. Et bah, on n'est pas là pour leur dire, voilà, c'est deux mois avant l'été, on te promet moins de 10 kilos avec notre programme. Non, notre programme, c'est tu vas rejoindre 6 coachs qui vont te mettre la misère, mais tu vas kiffer parce que tu vas rigoler pendant une demi-heure avec nous. Mmh. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport à d'autres. Effectivement, c'est peut-être plus froid comme, ouais. Tu vois, comme contenu.
Ouais,
quoi.
Comme approche. Ouais. Du coup, Tini te dit ça un beau jour. Vous êtes chez vous et il te dit « Écoute, je pense que ce serait une bonne idée de lancer un abonnement pour toutes les séances que tu proposes et pas juste en faire des PDF. »
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Moi, je l'ai rencontré en 2016. On n'est pas sortis ensemble de suite. On a mis un an, donc pour la petite histoire. Mais on a de suite accroché d'un point de vue sportif. On avait la même vision du sport. On pratiquait tous les deux à l'époque de la musculation. Moi, j'allais en salle. On était tous les deux végétariens. Donc, si tu veux, on a eu beaucoup d'atomes crochus, en tout cas dans les passions, on va dire. Tini était également ingénieur à l'époque, etc. Donc, ça nous a créé des liens. Et si tu veux, moi, j'ai toujours eu dans la tête, voilà, si un jour, je dois faire un projet plus abouti que mes programmes YouTube, quoi, que je dois aller plus loin, ben, c'est avec lui que je le ferai. Parce que, je sais pas, tu sais, tu le sens un peu.
Oui.
S'associer, c'est quand même... Moi, je me souviens la formule de mon avocat à l'époque, on a fait le contrat de l'entreprise,
hein,
d'associer,
ouais.
Exactement. Elle m'a dit, s'associer, c'est pire ou c'est mieux qu'un mariage. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que j'avais ça en tête. Et puis, ça s'est pas fait de suite, quoi. On est sortis ensemble un an après. Puis, le temps que le projet mûrisse, en 2018, j'ai dit, allez, vas-y, on se lance. Hein. On était dans le sud en vacances, chez moi à l'époque. Et on va dans un café au bord de mer, on se pose et je lui dis, tu sais quoi, on y va, on prend un papier, il faut pas 20 millions de trucs, on prend un papier et on pose les idées. Parce qu'on en parlait, voilà, ça faisait 2 ans qu'on en parlait, mais concrètement, il se passait rien. Et ce jour-là, on s'est posé, on a réfléchi au nom, on a réfléchi au concept. On faisait quoi? On faisait de la muscu, c'était le train. On voulait proposer des séances pour les gens à la maison, puisque moi, j'avais connu ça pendant des années quand j'étais étudiante, j'avais pas de salle de sport à côté, c'était le sweat. Et on veut proposer de la nutrition, c'est le HIIT. Et on s'est dit, train, sweat, hit. Et c'est comme ça que le projet est né. Puis après, évidemment, il a fallu aller un peu plus loin qu'une feuille de papier.
Ouais, mais c'est là que ça commence.
Ça commence. Et que, en discutant avec Tini, c'est lui qui a eu la vision vraiment de l'application. Moi, j'aurais fait, un truc en ligne où tu payes une fois. Enfin, je sais pas, plus classique, quoi. Et lui, il s'est dit, il faut faire une application. Et je l'ai suivi parce que techniquement, il s'y connaît bien mieux que moi.
Ouais.
Donc, on a concentré nos forces, quoi.
En 2018, une app, c'est quand même ambitieux. Ouais. Ça demande pas mal de développement, ça demande pas mal de financement.
Ouais.
Comment vous l'avez développé?
Alors, on a commencé petit, on a commencé avec un site. Donc, c'est un site qui nous a coûté un peu moins de 10 000 euros. Ouais. Donc, pour un site internet, c'est pas si cher. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas si cher. Donc, on a vraiment commencé basique. On a lancé le site en avril 2019. Ça a marché rapidement. On a rapidement remboursé l'investissement. Et là, on s'est dit, ça marche.
Et les gens payaient pour quoi ? Pour faire des séances sur le site ?
Exactement. Ils payaient donc un abonnement. Le premier jour, dès le lancement, je ne m'en rappelle plus, mais je ne sais pas, peut-être des centaines de gens qui se sont inscrits, ouais, qui ont pris un abonnement. Et il y avait déjà un petit bouquet de vidéos qui avait été pré-filmé de séances de sport. Il y avait également des programmes musculation et déjà quelques recettes que j'avais faites moi-même, shootées moi-même. Donc, ça valait ce que ça valait, mais c'était authentique, tu vois. Donc, on s'est dit rapidement, il faut qu'on aille plus loin parce qu'avec le site, vu l'affluence qu'il y a, etc., on va pas tenir. En plus, on avait pris une petite agence du sud et tout, donc ils étaient super, hein, mais voilà, c'est vrai que c'était pas une infrastructure très très robuste. Oui. Donc on a rapidement lancé le modèle de l'application avec une autre agence spécialisée dans les apps. Donc l'app a vu le jour quelques mois après, le temps de la développer, quoi. Okay. Et on est vraiment parti from scratch, comme on dit, donc de zéro, parce qu'à l'époque, t'en avais un petit peu, mais pas beaucoup d'agences qui te prenaient, qui te faisaient tout. Donc, tu vois, on a pris des développeurs, on faisait tous les allers-retours. On s'est retrouvés à devoir faire ça tous les jours. Tini connaissant un peu plus que moi, ce qui pose dans l'informatique, mais c'est pas notre métier non plus, les applications. Et ça a été la galère, quoi. Mmh. Et des galères, Dieu sait que sur l'application, on en a connu.
C'est, ouais. Parfois, en plus, c'est difficile quand tu te sens impuissant, quoi. T'aimerais, t'es là, mais pourquoi ça bug ?
Oui, c'est ça, parce que toi, t'as tes attentes, en plus, t'y connais rien, donc tu vois juste le résultat final, et puis tous les problèmes en amont, les explications, t'en as rien à faire, parce que finalement, c'est pas ton souci, toi, tu veux que ça marche à l'arrivée. Mmh. Et surtout, la période la plus difficile, ça a été confinement. Parce qu'on avait une application, c'était la V1, l'application qui était en place.
Ah ouais.
Mais là, on s'est pris une masse de gens. En quelques mois, on a eu quand même 1 million de personnes qui ont téléchargé l'application, tu vois. Mmh. Et notre modèle, il était pas bon. C'était encore une petite agence qui avait codé ça, tu vois, donc ça tenait pas la route. Et on se retrouve avec des gens qui payaient, qui arrivaient pas à se connecter à l'application. On a été dans des galères, on faisait du SAV avec Tini et des copains qui nous ont donné des coups de main jusqu'à pas d'heure le soir. Et là, on s'est dit, comment on va faire? Et là, on a pris une deuxième agence, on a tout jeté à la poubelle, on a ressorti le chèque, on a fait une deuxième app, qui est, aujourd'hui, on a une V3, mais qui est quand même le même support qu'on a aujourd'hui, donc ça allait quand même mieux.
Ouais.
Mais tu vois, des galères. En fait, surtout sur des choses qui sont, tu sais, immatérielles.
Ouais.
Tu vois, par exemple, tu vends un legging, la première version, elle est pas top, mais les gens, ils s'imaginent presque que c'est toi qui l'as cousu, donc ils sont indulgents. Une application, en 2019, t'es familier. T'as Netflix, t'as Instagram, ça doit marcher.
Mmh.
Et du coup, pourquoi TSE, ça marche pas ? Il y a une intransigeance, tu vois.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et comment tu le vis à ce moment-là ? Parce que c'est très difficile. On dit souvent qu'un client déçu, c'est en fait un client qui ne revient pas, tu vois. C'est un client satisfait t'en ramène 10, un client insatisfait peut t'en faire perdre 10.
Totalement. Déjà, tu te sens frustré et impuissant parce que c'est pas des choses sur lesquelles nous, en tout cas, on avait la main, parce que c'est pas notre métier et on n'est pas développeur, donc t'es dépendant. Donc ça, c'est le plus frustrant. Moi, ça m'a fait faire des crises de nerfs. Je te dis la vérité, où t'as juste envie de les prendre et de les secouer, mais tu peux pas le faire, tu vois. Et ensuite, nous, on a joué la transparence. Honnêtement, tu vois, on a été transparent avec la communauté. À chaque fois qu'on a eu des galères, et ça s'est reproduit sur notre marque d'activeware, où on avait des retards et autres, moi, je fais un message, j'ai dit, aujourd'hui, on a un problème, on travaille pour le résoudre, mais on a un problème et on peut pas faire autrement. Donc, soit malheureusement, vous pardonnez pas et vous en allez, soit vous attendez un petit peu et ça devrait se résoudre, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, c'est difficile à admettre dans un monde où il y a de la suroptimisation avec des Amazon qui t'envoient en 24 heures.
On parle pas.
Si jamais tu veux...
Au bout de 3 jours, tu es déjà en retard, tu vois.
Tu peux être remboursé alors que tu dis que quand tu
n'as pas reçu le
colis,
produit,
mais en fait, tu l'as encore.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile parce que ça habitue les clients à un niveau de service que tout le monde ne peut pas se permettre.
Ah bah, tu sais. Hein,
Je le sais un peu trop.
Ouais,
mais c'est vrai que... Je suis contente de voir que, mine de rien, beaucoup de small business, comme on dit...
On a tous les mêmes galères.
Voilà, le partage, et donc j'espère, représente un peu à contre-pouvoir. Et après, les gens, choisissent ce qu'ils veulent soutenir aussi.
Mais
hein,
comme on dit, faute à moitié avouée, à moitié pardonnée.
Ouais.
Et c'est exactement ça, finalement, quand t'es transparent avec la communauté et que tu leur expliques un peu le pourquoi du comment, alors ça va rentrer dans les grands détails, ils sont plus compréhensifs. Ils se disent... Ah oui, c'est vrai que finalement, ça aurait pu nous arriver aussi. Et puis, je pense qu'ils deviennent plus indulgents, alors que quand tu le dis pas ou que tu le caches, ils sont intransigeants parce que, comme tu dis, ils ont un niveau d'exigence avec d'autres entreprises qui leur donnent ces habitudes-là, quoi.
Ouais, c'est sûr. À l'époque, comment est-ce que vous répartissez les missions avec Tini ?
Alors, on est assez complémentaires et finalement, ça n'a pas vraiment changé. Lui est plus focus sur tout ce qui est technique, de par tout simplement ses expériences passées. Et moi, je suis plus sur tout ce qui va être branding, communication, idées, etc. Mais néanmoins, on participe à toutes les réunions, tous les deux.
D'accord.
Donc, on est partout tous les deux, mais par contre, on ne va pas tous les deux prendre toutes les décisions.
D'accord.
Il y en a où ça va être plutôt lui, il y en a où ça va être plutôt moi, on va se consulter. Mais c'est vrai que voilà, lui, il est plutôt sur une partie du business et moi sur l'autre. Et ça, pour les trois business que nous avons.
Ouais, mais on va en parler. C'est-à-dire que vous avez donc TSE qui voit le jour en 2019.
Oui.
Ça prend beaucoup d'ampleur, en plus, avec le confinement. Qu'est-ce qui vous fait dire « on va lancer un deuxième business » ?
La folie. Pour te dire la vérité. Voilà, l'inconscience,
tout est dit.
Non, c'est vrai. Bah, alors, on s'est pris, on va dire, pris un peu dans le jeu de l'entrepreneuriat. C'est vrai que bah, c'est une expérience. Alors, soit ça te dégoûte, je pense, soit ça te passionne. Mmh. Forcément, a fortiori pour nous, où ça a bien démarré et était voilà, une expérience positive, on a eu envie de la réitérer. Donc, on s'est lancé dans le business en deuxième, donc des compléments alimentaires. Donc, c'est un business qui est totalement différent des autres. Surtout que là, pour le coup, on est beaucoup plus dépendant parce que c'est pas nous qui fabriquons les protéines dans nos bureaux, contrairement à nos leggings, tu vois. Donc, c'est un business encore à part. Et après, on s'est lancé, là, pour le coup, dans l'activewear où on a la main sur absolument tout, tu vois. Et,
Entre guillemets, parce que c'est quand même une usine qui
produit. Oui, bien sûr, totalement. Mais
je trouve qu'il y a quand même, pour être dans le textile aussi, je trouve qu'il y a quand même une forme de dépendance, bah, justement,
totalement.
Sur la hauteur de prod, sur la logistique.
Ultra dépendant, mais disons qu'on peu, comment dire, avant que ça parte à l'usine, on fait tout en interne,
oui,
tu vois.
Oui.
On ne travaille pas avec une agence ni rien. Donc, c'est encore un autre business.
C'est vrai que les compléments alimentaires, c'est un labo, quoi, presque. Qui
oui,
fait
oui,
des
oui.
Produits,
on est évidemment accompagné.
Vous avez un cahier des charges.
Oui.
Vous leur envoyez.
Exactement.
Et après, eux, ils vous font des propositions sur les formulations.
C'est ça. Alors que, tu vois, le textile, si on veut que notre styliste prenne une machine à coudre et fasse un patron, on le fait, tu vois. Mmh. Donc, évidemment, on est aussi dépendant au niveau de la fabrication, mais c'est un petit peu différent quand même.
Ouais.
C'est différent. Et je pense qu'en fait, on a réuni toutes nos passions et nos aspirations dans le business.
Ouais.
On avait envie de proposer du sport, on est consommateur de compléments et bah, évidemment, forcément, j'adore l'activewear. Et on s'est lancé là-dedans. Et tu vois, aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de nous lancer dans aucun autre domaine parce que bah, on a finalement un petit peu touché à tout ce qui nous passionnait vraiment. Quoi.
Quand est-ce que ça arrive, les compléments alimentaires ?
2021, si je ne dis pas de bêtises.
Okay.
Donc, 2 ans après. Et l'activewear, 2022, donc 1 an après. Ouais.
Et comment, enfin, j'imagine, vous avez l'app, vous avez le business des compléments alimentaires. Comment vous faites pour ne serait-ce qu'avoir le temps d'en développer un troisième ?
C'est dur. Franchement, des fois, on se dit, ça va trop loin. En fait, on est passionné, donc on a envie de se lancer dedans.
Ouais.
Et puis après, bah, je ne veux pas dire franchement des bêtises, tu vois, des mensonges. Il y a des fois, on ramasse et puis on se dit, on n'aurait pas dû faire ça, tu vois. Là, typiquement, ouais. On réédite, on va dire, l'expérience du pop-up store sur cette fin d'année. Ça fait 3 mois qu'on est dans le jus grave, quoi. Et à chaque fois, on se dit, punaise, les réunions pop-up store, oh là là, c'est la goutte de trop, quoi.
Ouais.
Et une fois que t'es dedans, en fait, t'as plus le choix de reculer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une limite avec laquelle on surfe, clairement. Et là, on veut plus la dépasser et on va même essayer de voilà, calmer un peu la voilure pour retrouver un rythme de croisière un peu plus confortable. Mmh. Parce qu'il y a un moment donné où il ne faut pas confondre le stress qui est positif et celui qui finit par devenir anxiogène et,
ah ouais.
Et totalement négatif.
Et néfaste, ouais, c'est sûr. Mmh. Et pour qu'on se rende compte concrètement, tu vois, déjà, dis-nous, on va faire dans l'ordre, comment est-ce que ton quotidien change entre 2018, où finalement tu as plein temps créatrice de contenu,
ouais.
Et fin 2019, où bah, tu as l'app en plus. Comment est-ce que déjà ton quotidien avec TSE a changé? Et après, on
ça
le fera pour chacune des verticales.
Ah ouais, c'est totalement différent. Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est pas parce qu'on a déposé au greffe un dossier que le quotidien a été révolutionné. Mais disons que si on prend vraiment une photographie 2018-2019, bah 2018, j'étais à mon compte, voilà, toute seule. Je travaillais pour moi, par moi-même, et puis c'était tout. Et finalement, j'avais de compte à rendre à personne.
Mmh.
Et en 2019, et c'est encore pire aujourd'hui, bah, je suis à la tête d'une entreprise. Alors en 2019, on n'était pas très nombreux. Hein. On était 4 ou 5, tu vois. C'était pas le nombre d'aujourd'hui. Mais malgré tout, je travaillais pas toute seule pour moi. Je bossais avec d'autres, pour d'autres. Et t'as beau être bah, le patron, entre guillemets, t'as des comptes à rendre toute la journée. Ouais. Et finalement, bah, tu te retrouves dans un schéma qui est celui, bah, d'une entreprise, que tu sois patron ou employé, ça change pas grand chose. Alors que quand je faisais des vidéos YouTube, entre guillemets, c'était un modèle totalement différent.
Ouais, ouais, c'est
ça
vrai.
N'a plus rien à voir.
Et alors, si tu devais nous décrire un peu une semaine type à ce moment-là, en 2018 et en 2019, comment est-ce que ça change?
Alors, mon quotidien, quand j'étais toute seule, il était assez régulier. Ça n'a pas changé. Je me levais tous les matins. Tu vois, je mettais pas de réveil, mais je me levais tôt. Donc à 8h, je t'ai levé devant mon ordi.
Ouais.
Voilà, mais déjà, j'avais pas le stress du réveil. Donc ça, c'était un luxe. Franchement, je me levais. Donc j'avais des jours qui étaient dédiés à la création de contenu, des jours qui étaient dédiés au montage. Je faisais, et j'ai fait pendant longtemps, la gestion moi-même de mes collaborations quand elles sont arrivées. Donc j'avais 2-3 heures par jour qui étaient dédiées à mes correspondances par mail ou call avec des entreprises, etc. Et voilà, après, il y avait un petit peu d'événementiel ou autre, mais vraiment, la création de contenu, c'était 90%, non allez, 70 et 30 avec la gestion des collabs, on va dire, en termes de temps. Mais sinon, à part ça, il n'y avait quasiment rien d'autre dans mon quotidien. Et c'était pas tous les jours, mais quasiment, quoi. C'était au moins du 6 jours sur 7. Mmh. Après, le rythme, il était pas aussi intense qu'aujourd'hui. Tu vois, à 18h, 19h, j'avais fini, j'allais à la salle, quoi.
Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, en 2019, c'était moins intense, mais c'est...
Ouais, 2019, et après, on fera aujourd'hui.
Alors, 2019... là, ça s'accélérait, puisqu'au début, en plus, Tini était encore employée. Donc, j'étais pas toute seule, parce qu'il me supportait, mais dans une quand même bien moindre mesure. Donc là, le rythme a quand même commencé à s'accélérer, puisque là, j'ai commencé finalement à cumuler deux activités. À cette époque, je maintenais mon rythme sur les réseaux sociaux.
Ok, donc tu t'es dit, je maintiens le même rythme.
Oui.
Tu t'es pas dit, je vais back-up un peu. Ok.
Non, non, c'est vraiment quelque chose qui s'est rajouté, en fait. Donc, les journées se sont rallongées, l'organisation de la journée a commencé à changer un petit peu. Tu vois, j'ai commencé à mettre des réveils. 7h30, 7h, 6h30, voilà. Les journées se sont rallongées, on a commencé à aller à la salle, il était à 21h, on faisait la fermeture avant de pouvoir rentrer à la maison. Donc voilà, en fait, ça s'est tout simplement cumulé. On travaillait le week-end. Des fois, on rentrait, on retravaillait. Période du confinement, où là, on a eu des galères. On travaillait jusqu'à minuit tous les soirs. Après les lives, c'était loin d'être fini. Donc, ça a été une période de transition qui était très intense en termes de temps passé, mais qui était ultra galvanisante. Et quand on en parle avec Tini, finalement, je pense que les meilleurs moments d'une start-up, c'est vraiment la première année, quoi. Mmh. T'as peu de personnes, mais t'as que des gens ultra motivés. Tu bosses comme un chien, mais c'est génial, quoi.
Ouais, ouais, tu vois les résultats aussi du travail que tu fournis,
totalement,
quoi. Totalement. Et arrive, du coup, donc, le business des compléments alimentaires et ensuite de l'activewear. Là aussi, ça m'intéresse vraiment de comprendre comment toi, tu t'organises pour finalement ne pas... Pour que les autres business n'en pâtissent pas, mais que tu puisses quand même consacrer du temps au nouveau.
Oui.
Tu vois, comment est-ce que tu appréhendes à chaque fois un peu ça, la restructuration de ton emploi du temps au fur et à mesure qu'un nouveau projet arrive?
Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment un agenda qui est millimétré, mais quand je dis au quart d'heure, c'est au quart d'heure. Je me prends des bouchons, je suis en retard pour les réunions, tu vois.
Ouais.
Et j'arrive pas à avoir le luxe de partir plus tôt, quoi. C'est réveil tous les matins, c'est 6h. La gym à 7h. Balade du chien à 7h45. 8h30 devant l'ordinateur. Et c'est ça tous les jours. Le matin, donc, la matinée est plutôt dédiée un petit peu à la création de contenu. Mais tu vois, c'est pas des trucs de dingo. Hein. Ça va être mes stories, mes petits montages, si je veux poster un reel, c'est un TikTok, ce genre de choses. Que je fais toujours en parallèle de ma messagerie en ligne avec l'entreprise.
Ouais.
Donc, je suis pas focus à 100%. Genre, j'ouvre pas l'ordi à 13h, tu vois. Mais disons que j'essaie de rester quand même un peu dans cette bulle. Et les après-midi, la plupart dans la semaine, c'est le bureau. Donc là, c'est des full après-midi de meeting où en fait, on échange avec la team toutes les heures. C'est une réunion différente, donc de 14h jusqu'à officiellement 18h. Puis nous, après, ça continue jusqu'à 20h, tu vois. Où du coup, on partage notre temps finalement entre les trois business. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres, mais c'est pas forcément ceux qui rapportent le plus, tu vois.
Ça serait trop beau.
Ça serait trop beau. Par exemple, TSE Athletics, l'Activewear, nous prend beaucoup de temps en termes de temps passé. Et pourtant, ça reste un business qui est encore naissant.
Oui, et puis qui demande des investissements et des coûts fixes que tu n'as pas avec une app.
Totalement.
Ou en fait, c'est un service.
C'est un service.
Donc, t'as rien à mettre
sur
la table, quoi.
C'est plus facile.
Ouais, ouais. Ah non, mais ça, c'est
pas
béni, hein.
Stock, bien sûr, t'as des charges. Et c'est super long à développer et tout, alors que l'application, finalement, on pense à un truc. Alors, il y a des développements qui sont longs, hein, sur lesquels on a passé 6 mois, 1 an. Mais si c'est des choses pas trop simples, en 2 mois, ça sort.
Ouais.
Ta collection sort en 2 mois, quoi.
Ah ouais, tu t'en doutais que ça prenait autant de temps avant d'entrer dans le business de l'activewear?
Ouais, et je trouve qu'encore, on s'en sort pas mal. Là, on essaie vraiment de gagner de l'avance. On est, tu vois, là, en ce moment, on est sur les collections mi-2024, fin 2024. Mmh. On commence déjà à y être. Mais il y a encore un an, au début, quoi, on était pour les collections de 4 mois plus tard, quoi.
Ah ouais.
Et là, c'était le stress. On essayait de trouver les fabricants qui puissent produire rapidement. On était à l'arrache.
Comment t'as trouvé tes premiers fabricants? Parce que c'est un milieu vraiment hyper fermé.
Alors, on s'est entouré... Même pas pour ça, on s'est entouré dans l'application au bout de quelques mois d'une personne que je connaissais depuis des années. Vous allez rire, mais que j'ai rencontré en boîte de nuit, tu vois, à l'époque. Donc,
ah non,
improbable.
C'est super drôle.
Super drôle.
Vous rencontrez vos meilleurs associés en boîte.
Ouais, donc c'est une personne avec qui on a bossé, donc, qui n'est pas associé, mais qui est tout comme, qui est un peu notre bras droit et qui nous a beaucoup aidé sur l'application. On a été 3, puis 4, puis 5. Et c'est une personne qui a eu de l'expérience dans le textile.
Okay.
Donc, quand l'idée a un petit peu émergé, si tu veux, ça s'est fait assez naturellement parce que cette personne avait des compétences que nous, on n'avait pas. Donc, tu vois, moi, je suis un peu sur tout ce qui est branding, communication et autres. Tini, ça va être la technique. Et cette troisième personne, elle, ça va être justement tout ce qui va être fournisseur et notamment
Façonnier, etc. Ouais, ok, d'accord.
Donc, c'est plutôt cette personne qui s'en est chargée. Puis après, on a construit l'équipe. On a commencé avec une styliste. Et ça, on a été, 4, quoi, pendant quasiment 1 an. Puis une modéliste, puis une gestionnaire de collection. Et encore à ce jour, on a une toute petite équipe. On est 5, quoi.
ouais, mais c'est sûr que finalement, t'as tous les postes essentiels et voilà. Et après,
on essaye de l'étoffer quand même. D'ailleurs, okay. Sur LinkedIn et tout, on poste nos offres s'il y en a qui sont intéressés.
Allez, je mettrai ça dans les notes, tout à fait. Comment tu choisis qui est-ce que tu recrutes? Quels sont tes critères?
Au début, c'était les miens. Aujourd'hui, on a des personnes compétentes pour mieux choisir que moi, parce qu'on a un service RH pour le faire.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur tous les métiers qui sont directement liés à mon activité, je reste toujours impliquée dans le recrutement et sur les derniers entretiens, etc. C'est dur à dire parce que moi, c'est pas mon métier. Donc, c'est vrai que...
Ouais, mais quand tu faisais passer, tu vois, les premiers entretiens pour ces premières personnes, est-ce que
t'as... T'as toujours une part de feeling.
Ouais.
T'as toujours une part de... est-ce que la personne est passionnée, motivée? Je regardais pas forcément les compétences pures, mais plutôt le potentiel à la progression et surtout l'envie de la personne à progresser et à se donner. Ça n'a pas toujours été des bons choix. Ça,
d'accord.
Faut le dire aussi.
Ouais. Je trouve que c'est pas forcément le bon indicateur.
Des fois ça l'a été, puis des fois non. Quelques entretiens finalement, quand t'es pas du métier, t'arrives pas à tout déceler, et puis il s'avère que finalement ça matche pas. Dans un sens comme dans l'autre. Hein.
Oui.
Il y a des personnes qui se sont pas reconnues chez TSE, et puis il y a des personnes qui n'ont pas matché avec TSE. Et c'est pas si facile. On s'imagine toujours que la team de l'ombre, comme on l'appelle chez TSE, entre guillemets, c'est notre famille. Non, ça reste une entreprise avec des employés. C'est pas ma mère, c'est pas ma sœur, tu vois.
Ouais. Et c'est sain aussi, d'ailleurs.
Et c'est sain aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a aussi appris avec l'expérience. Les premières personnes qu'on rejoint à l'entreprise et qui, pour certaines, sont encore là aujourd'hui et font partie vraiment des piliers d'entreprise, c'est des personnes avec qui on a un relationnel très proche. Et puis aujourd'hui, les recrutements, c'est totalement différent. Mais c'est plus sain aussi. Tu vois, t'as une transition qui se fait et qui est obligatoire.
C'est sûr que l'humain, en fait, c'est le plus compliqué. Et alors, surtout vous qui avez connu une telle croissance avec le confinement et après,
ouais.
Quel a été l'enjeu et comment bien recruter quand on connaît une croissance si rapide?
Je sais pas si on a bien recruté ou pas, sincèrement. On a recruté, c'est vrai, rapidement. On a été, je te dis, 5 pendant 1 an. Et puis, la deuxième année, on était déjà 20, quoi. Alors après, c'est plus...
Oui, enfin bon, t'as recruté 15 personnes en 1 an, quoi.
Ouais, et aujourd'hui, on est genre 30, tu vois, à peu près. Vraiment en interne, quoi. Et on est encore sur plein de recrutements parce qu'on n'est toujours pas assez. C'est vrai, là où je te rejoins, l'humain, c'est le plus dur. Alors, parce que c'est pas notre métier. Moi, j'ai toujours été à mon compte. Tu vois, bah, même quand j'étais créatrice de contenu, donc j'ai pas d'expérience en dehors de tout ce qui est étudiant, stagiaire, autre, vraiment significative dans une entreprise. Tini en a, lui, il a bossé pendant 10 ans avant, tu vois, mais en tout cas pas moi. Et c'est très difficile parce que bah, finalement, tu n'es pas chef d'entreprise, tu n'es pas patron et ça s'apprend, ça s'acquiert et ça se travaille. Et tu apprends tous les jours que tu fais aussi des erreurs, etc. Et bah, il faut faire avec, il faut rebondir. Mais c'est indéniablement la partie la plus difficile du job, en tout cas pour moi.
Comment est-ce que tu penses que tu es devenue meilleure, meilleure patronne, meilleure manager ces 3-4 dernières années?
Je pense en essayant d'apprendre aussi des erreurs qu'on a commises, et on en a commis beaucoup. On continue très certainement d'en faire encore aujourd'hui, et on essaye de comprendre pourquoi ça s'est mal passé quand ça s'est mal passé. Il y a des fois, on pense pas forcément être en tort, mais il y a toujours quelque chose, en tout cas de notre côté, qu'à jouer. Et on essaye de l'identifier et de ne pas le reproduire. Et puis, à des fois, on se dit, bah non, là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et malheureusement, bah, si ça ne plaît pas, c'est que ça ne matche juste pas. Mais on ne peut pas changer qui on est sur ce sujet-là, tu vois. Mais on essaye quand même voilà, d'apprendre là-dessus. Et c'est dur parce que quand tu es tout seul, tu es ultra exigeante, tu es ultra à fond, tu mets une énergie dans ton business et tu peux pas avoir la même exigence de tes employés. Et je pense que c'est là le plus dur, c'est de le comprendre et de l'accepter.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, après, tu as Tini, j'imagine, qui met aussi du coup la même énergie. Est-ce que tu manages, toi, ou pas?
On l'a fait.
Au début,
on le fait encore en soi. Je dis, on est tous les jours au bureau quasiment, donc forcément.
Oui, mais tu pourrais avoir du coup des managers en chef, entre guillemets, parce que si jamais toi tu identifies que, je sais pas, c'est pas ce qui te botte le plus, ou c'est pourquoi t'es la meilleure.
Moi, ça me botte pas, et c'est pas où je suis bonne. Donc, tu vois, c'est. Voilà. Comme je te dis, j'ai jamais baigné dans ce milieu, donc. Donc, j'ai pas spécialement d'atome crochu pour ce domaine-là, Mais on s'est entouré cette année d'un directeur opérationnel qui, lui, du coup, est beaucoup plus dans le management et dans... Alors, nous, on baigne énormément dans l'opérationnel, mais plus dans la gestion, je dirais, de l'opérationnel, chose qu'on faisait en direct avant. Et puis, quand on a été quasiment 25... là, c'était une obligation parce qu'on n'en pouvait plus, en fait. On n'y arrivait plus et ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Et là, on aurait dû le faire avant. C'est dit, il nous faut vraiment quelqu'un. Et en fait, on était pris par l'opérationnel. C'est pas qu'on voulait pas déléguer, c'est pas qu'on voulait personne. C'est juste qu'on était tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrivait pas à se dégager du temps pour le faire.
C'est ça.
C'est très dur, en fait, de se dire, bah, je mets ça de côté parce que là où je vais passer du temps aujourd'hui, ça va m'en faire gagner demain. Et c'est encore difficile de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on a cette première personne qui nous a rejoint et on essaye maintenant, sur chacun de nos pôles, tu vois, d'introduire des responsables, des directeurs, etc., pour créer une hiérarchie qu'on n'a pas eu pendant très longtemps, où on était en direct avec 25 personnes. Quoi. Donc, ça construit un petit peu, comme tu dis, finalement, des personnes qui vont manager à notre place et ce qui nous permet, nous, d'être bons là où on est le meilleur, à savoir les idées, tu vois, tout ce qui va être stratégie, etc. Et même si on aimerait se décharger un petit peu de l'opérationnel aussi.
Mais... Ouais, ça viendra, j'en suis sûre. Ouais. J'aimerais bien comprendre quand est-ce qu'on sait qu'un business roule assez pour pouvoir se dégager du temps pour un autre projet. Tu vois, je pense que c'est propre à notre génération, en effet, d'être dans... pas vouloir s'enfermer, voilà, dans une seule activité. À quel moment vous vous dites, tu sais quoi, là, franchement, ça tourne, on va se lancer dans le business des compléments alimentaires. Est-ce que ça passe par recruter plus de personnes sur l'app pour vous consacrer aux compléments? Est-ce que ça passe au contraire par directement recruter quelqu'un pour développer cette branche-là? Comment ça se passe? Parce que voilà, des personnes pourraient avoir finalement cette pensée limitante de se dire « Ah non, 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 là, on a un business qui marche bien, en pleine croissance, il faut qu'on se concentre dessus, quoi. » Le focus...
Après, c'est pas une mauvaise stratégie, hein, ceci dit.
C'est sûr.
Vaut mieux être bon sur un truc que moyen ou mauvais sur 10 autres. Hein.
Mais alors, ça, c'est une question que je te poserais.
Ouais.
Mais d'abord, on va...
Je réponds à la première question.
Mais voilà, mais après, c'est comment, du coup, tu fais pour être bonne dans les trois et pas à moyenne?
Alors...
Tu choisis par laquelle tu veux répondre en premier.
La première, je réponds dans l'ordre. Pour le coup, on ne se l'est pas dit. Je sais pas si ça a été une bonne ou mauvaise chose, mais on n'a pas attendu d'être en place, si on peut dire ça comme ça, dans le premier business pour se lancer dans le deuxième, dans le troisième. Sinon, clairement, on n'aurait pas lancé le deuxième et on n'aurait pas lancé le troisième. Parce qu'on n'est pas, on n'est toujours pas aujourd'hui 100% opérationnel sur Train Sweat It. Aujourd'hui, même sur l'application, donc le business principal, on a encore plein de choses à faire. En fait, on, sincèrement, on s'est lancé un peu tête baissée. Et c'est ce qui a fait, je pense, qu'il y a eu des périodes vraiment très tendues, très chaudes en termes de, bah, de projets, de problèmes, de temps à passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait dû attendre d'être peut-être un peu mieux organisé, staffé, etc. Peut-être. D'un autre côté, si tu attends toujours d'être pleinement opérationnel, tu ne fais pas grand-chose non plus, parce que voilà, 4 ans après, c'est toujours pas le cas. Mais nous, on a pris le truc à l'envers. On s'est dit, bah vas-y, on se lance dans un autre business. Et puis, en fait, on a recruté une personne pour le faire. Ouais. Puis après, bah, une deuxième, une troisième. Et puis, comme ça, on construit l'équipe. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas.
Et comment est-ce que toi, tu sais où ton temps est le plus utile?
C'est dur, ça, comme question. En fait, on alloue notre temps aux besoins du moment, j'ai presque envie de dire. Quand on est dans un petit peu peut-être la période de la création d'une collection, ben on va être un peu plus pris par TSU Athletics. Quand on est dans une période de rush total, n'importe quoi, c'est la rentrée, les programmes sportifs, etc., on va consacrer plus de temps à l'application. Mais en réalité, on consacre le temps où il faut, là où il faut, et on se dit pas, je délaisse l'un pour l'autre. On essaye de faire en sorte que tout rentre dans l'agenda, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
D'où les longues journées, tu vois.
Et alors, ouais, ça rejoint ma deuxième question. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que vous êtes bon dans chacun de ces business? Parce que voilà, le risque, en effet, en multipliant les activités, c'est potentiellement d'être moins bon dedans. Comment tu fais pour toi assurer le niveau pour les trois?
Alors, on n'excelle pas partout. C'est vrai que dans l'application aujourd'hui, je trouve en tout cas qu'on a quand même acquis un niveau, entre guillemets, d'excellence. Le mot est un peu fort, c'est pas pour me le raconter. Mais,
non, mais il faut, franchement, il faut dire les choses.
C'est vrai que, non, sincèrement, quand je regarde, et on le fait, hein, les autres acteurs du marché, et je te dis, même les gros, etc., aujourd'hui, je trouve qu'on a un niveau, au niveau technologique, au niveau contenu, au niveau... voilà, en tout cas, sur tous les domaines, où il n'y a rien où je me dis « Ah, il y a un endroit où on est mauvais, tu vois. » Je trouve qu'on est plutôt bon partout. En revanche, sur les deux autres business, on a encore plein d'axes d'amélioration. On n'est qu'aux prémices et pour moi, on n'excelle pas. Par contre, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire du mieux possible. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais soit on le fait vraiment bien, soit on le fait pas. Ça nous est arrivé, toi, typiquement sur de l'activewear, d'annuler des produits complètement parce qu'on se dit il est pas exactement comme on le voulait, donc on le sort pas. Et ça nous est arrivé pas plus tard que sur la collection précédente, tu vois. Donc c'est pour ça que même si c'est pas parfait, on essaye quand même de maintenir un niveau d'exigence qui est en tout cas en accord avec nous, nos valeurs et ce qu'on a envie de proposer, quoi. Mais n'empêche qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire mieux.
Comment tu fais plutôt pour ne pas avoir le sentiment de bâcler? Tu vois, de courir derrière le temps, de dire « Ah là, j'ai fait ça, mais il faut que je fasse ça derrière. Oh mince, j'ai pas le temps de terminer ça. » Quand on a un emploi du temps aussi chargé, sauf que c'est vite l'écueil dans lequel on peut tomber.
Ah oui, je l'ai. Tu vois, quand on fait des réunions et que tu verrais le planning de l'après-midi, les réunions de l'après-midi, c'est timé toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure, toutes les heures, et on est là en train de regarder la montre. Des fois, je me dis, tu vois, une réunion qui dure 45 minutes, j'aurais kiffé qu'on y passe 2 heures juste pour avoir le temps d'approfondir le sujet, d'échanger. En fait, tu peux pas parce que derrière, il y en a 20 qui attendent leur point à eux aussi, tu vois, et que chacun est aussi dépendant. Donc après, tu sais que tu mets tout le monde en retard. Enfin, donc oui, clairement, j'aimerais aujourd'hui avoir plus de temps pour chacun des business, ce qui veut peut-être aussi dire finalement que on a peut-être trop de business pour le temps qu'on a, tu vois. Quelque part, c'est un peu ça, tu vois. Mais non, c'est difficile de ne pas l'avoir un peu, ce syndrome, tu vois.
Ouais. Après, la solution, j'imagine, c'est le recrutement, hein, finalement.
Mais tu te rends compte qu'en fait, quand tu recrutes, tu délègues des choses, mais ce n'est pas pour autant que ça allège ta charge de travail à toi. C'est-à-dire qu'il y a de l'opérationnel, moi, je trouve, qui est délégué, mais pour autant, tu as toujours une gestion qui te revient. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne travaille pas forcément plus en termes d'heures qu'il y a 4 ans, tu vois, voilà, en 2019 ou 2020. Mais par contre, la charge mentale, elle a explosé. Parce que plus tu as d'employés, plus tu as de pôles, etc., plus ta charge mentale, en fait, elle est élevée. Alors que finalement, il y a 4 ans, on bossait des fois jusqu'à minuit, mais c'était moins lourd. Alors qu'aujourd'hui, on ne bosse plus jusqu'à minuit. Hein. Mmh. On ne lève pas à 6 heures, sinon tu vois. Mais...
Ouais.
Mais pour autant, je trouvais que c'était plus facile à l'époque.
Mmh.
Donc tu vois, le recrutement, il fait que tu passes moins de temps et que tu fais plus de choses. Mais pour autant, ta charge mentale, elle ne diminue pas.
Et ça, ça ne te fait pas dire que tu n'as peut-être pas forcément envie de continuer à croître ?
J'ai envie qu'on continue de croître à la condition qu'on se structure mieux encore. Et c'est ce pourquoi on travaille tous les jours, hein. Ce pourquoi on recrute. J'espère quand même qu'avec l'organisation qu'on est en train de mettre en place, cette charge mentale, elle va quand même diminuer. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des responsables de pôle, etc. Pour, je l'espère en tout cas, m'éviter dans le futur d'avoir à être autant impliquée dans toutes ces petites tâches du quotidien. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Ouais, parce que sinon, non, ça, on va pas tenir 20 ans comme ça.
Quelle a été, tu penses, la période la plus difficile pour toi dans ton business ?
Difficile en termes de travail ou...
En termes de ressenti. Genre une période où, tu vois, la période la plus difficile à vivre.
Bah tu vois, l'année dernière. Donc c'est pas si vieux, faut l'année dernière et tout ce début d'année.
Okay.
Donc la période la plus récente.
Ouais.
Tu vois, donc elle est pas loin derrière moi malheureusement.
Elle est passée ?
Elle commence à passer.
Okay.
On va dire ça comme ça. Elle commence à passer. Où, justement, au niveau recrutement, ça a été chaud. Au niveau gestion de l'équipe, ça a été chaud. Ça a été une grosse, grosse charge mentale. Ça a été un gros stress qui, pour une fois, n'a pas été positif. Où, tu vois, je te disais, moi, c'est pas ce qui me stimule, c'est pas ce que je sais faire, etc. Et là, je me suis retrouvée, finalement, un peu malgré moi, à me retrouver dans une position qui n'était pas celle que je voulais et qui était... pas celle où j'étais bonne, quoi.
Ouais.
Et ça, ça a été... et celle encore, c'est la partie la plus difficile du job. Et depuis qu'effectivement, on a été épaulé par notre directeur opérationnel, ça commence à aller mieux.
Okay.
Mais c'est le plus compliqué, très clairement.
Et pourquoi tu ne l'as pas changé avant, tu penses ?
On voulait, mais c'est dur. Hein. Mmh. C'est dur de recruter, entre guillemets, le second, quoi, finalement.
Ouais.
Qui doit avoir de l'expérience. Et puis, tu vois, nous, on a une équipe qui est jeune, donc il faut quelqu'un qui sache aussi parler à des jeunes, qui comprenne le projet, parce que c'est quand même... Tu vois, aujourd'hui, on travaille notamment grâce aux réseaux sociaux. Tu vois, on a une personne qui a plus de 50 ans à nos côtés. Faut quand même qu'elle soit dans la fibre, quoi, tu vois, des réseaux. Et ça n'a pas été si facile à trouver.
Si là, tu pouvais donner une forme de mini masterclass à des étudiants, tu vois, qui sont dans le commerce, qui veulent lancer un business, et que tu pouvais leur partager les trois facteurs, à tes yeux, qui ont le plus favorisé la croissance que TSE et que tes business ont connu, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Quelqu'un qui crée un projet de zéro, je pense que le plus important, c'est d'avoir un projet qui fait sens, en fait. Parce que ça va demander tellement de temps, tellement d'investissement, que si ce projet, il ne te fait pas vibrer au quotidien, je pense qu'il est voué à l'échec dès le départ. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est encore là. C'est parce que finalement, ce projet, il nous passionne et que même dans les moments les plus difficiles, je pense que nous, on a connu des périodes où il y en a qui auraient raccroché, hein, je te dis la vérité. Bah, tu te rappelles pourquoi tu as commencé, en fait, et pourquoi tu le fais. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut être prêt à s'investir. Ça, c'est la vérité. Parce que quand tu commences, tu es tout seul. Et que si ça commence à marcher, ce que je souhaite à tous, il faut s'investir. Et ça, et c'est pour ça que ça rejoint. En fait, tout est lié. Ça rejoint le point. Faut avoir envie de le faire. Ça va être ça va être ta vie. Ça va être. Tu te lèves, tu penses à ça. Tu te douches, tu penses à ça. Tu te couches, tu penses à ça. Donc, faut avoir envie de le vivre. Et après, le troisième point, je dirais aussi savoir bien s'entourer. Comme on le disait au début, seul. On va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et savoir bien s'entourer, je pense que c'est ultra important dans le business. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais jamais fait ce qu'on a fait si j'avais été toute seule, par exemple. Donc voilà, savoir s'entourer au bon moment, je pense que c'est une sorte de feeling aussi, à des bonnes personnes pour s'épauler. Et voilà, je pense qu'avec ces trois piliers,
ouais,
aident en tout cas à la réussite d'un business et en tout cas à faire en sorte que les gens le vivent bien. Et que ça soit une réussite en finalité. Ouais.
Et si toi, tu pouvais parler à Cici fin 2018, une fois qu'elle a terminé d'écrire ses idées sur la feuille,
ouais,
tu lui dirais quoi ? Si tu pouvais lui dire un truc ?
Écoute, je pense que je laisserai faire finalement l'histoire comme elle s'est passée. C'est un peu bateau, hein, tout le monde a tendance toujours à raconter la même chose, mais au finalité c'est que c'est vrai. Mmh. C'est souvent aussi des moments un peu difficiles ou un peu galères que t'apprends et finalement que tu rebondis. Et j'essaye toujours de voir ça comme ça. À chaque fois qu'on a une galère, je me dis attends, en fait là c'est la galère, mais ça va peut-être finalement nous faire ouvrir les yeux sur autre chose, sur un problème, sur une situation et nous faire mieux rebondir. Et c'est, je pense, un petit peu finalement la mentalité de tout entrepreneur, parce que des galères, on en a tous. Je pense que ça serait mentir si l'un de nous prétendait l'inverse. Et je pense que être entrepreneur, finalement, c'est savoir gérer les galères, savoir rebondir, parce qu'un jour, une galère, nous, c'est ça.
Mais ça ferait rêver beaucoup moins de monde si dans les, tu sais, les petits bouquins là, d'orientation, la définition d'entrepreneur, ce serait gestionnaire de galères.
Mais c'est tout à fait ça. Est-ce que c'est vrai ou pas, franchement?
C'est très vrai.
C'est très vrai, tu vois. Mais tu l'apprends avec le temps.
Ouais,
heureusement, sinon tu te lances pas.
Non, exactement. Est-ce que vous avez levé des fonds, vous?
Non.
Vous avez jamais besoin de lever des fonds.
Je te dis, avec un site à 10 000 balles.
Ouais.
Et puis après, avec une app qui nous a coûté, bah, pour sa dernière version, le prix d'une maison. Tu vois,
le prix d'une maison?
Ça, mais c'est des sommes.
Alors, d'une maison où? Parce que ça dépend. Oh, mais...
Et tu sais, j'ai arrêté de compter, je te dis. Je pense qu'aujourd'hui, on s'achète une très belle maison.
Ah ouais, on
bah
se
oui.
rend pas compte.
En fait, on réinvestit énormément. Ouais. Et une application, c'est... En fait, ça te consume les fonds. Parce qu'une application, c'est vrai qu'on se disait, c'est le digital, c'est facile.
Bah ouais, par rapport au stock, moi je me disais, c'est du pain béni, tu
non,
vois.
Non, c'est vrai, ça coûte des sommes folles. Et en plus, c'est pas une fois qu'elle est faite, elle est faite. C'est que t'as une, en fait une maintenance, une amélioration au quotidien. Nous, on a entre 5 et 7 personnes à temps plein tous les jours qui bossent sur l'application. Ils sont pas dans la team, la plupart sont en prestation, tu vois.
Okay.
Et ça, en plus, les développeurs coûtent cher. Coûtent trop cher, les gars.
Ouais, parce qu'ils savent qu'ils sont indispensables.
Ah ouais, il y en a pas beaucoup. Donc,
il faut plus de meufs.
Ouais, c'est vrai, il y a que des mecs.
Ouais, c'est dur de recruter des meufs devs. Et comment vous faites pour continuer à croître sur TSE, justement après avoir connu une telle croissance pendant le confinement? Parfois, finalement, c'est, on va dire, un peu le pendant compliqué d'un tel succès, c'est qu'il faut essayer de continuer à battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, comment vous faites pour continuer à recruter?
Alors, en termes de clients, j'imagine?
Oui, en termes de clients.
Alors, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'on a connu progression assez
phénoménale,
fulgurante, voilà, à dire l'inverse. Donc, c'est impossible, et ça serait se leurrer que de l'imaginer, en tout cas, de garder la même croissance. Mmh. Évidemment, on a connu un pic qu'on ne connaîtra peut-être plus jamais, en tout cas dans l'histoire de TSE, mais il faut prendre ce qui est à prendre, très clairement. Aujourd'hui, l'enjeu, il est effectivement de continuer à croître le plus possible. Et là, c'est d'autres leviers. Du coup, il n'y a plus le confinement et c'est pas tata sissi. C'est finalement notre objectif, c'est vraiment d'étendre la notoriété de Trend Sweat It au-delà de ma propre communauté. On a de la chance parce que nos clients sont notre premier bouche à oreille. Le nombre de gens que tu croises dans la rue, ils te disent « Ah, je t'ai connu grâce à ma cousine. » Et puis, la nénette, en fait, elle a 55 ans. Et a priori, c'est pas du tout massif sur les réseaux sociaux, tu vois.
Ouais.
Et on croise beaucoup de mamans et des mamies, même des fois. Donc, ça, c'est cool. Mais après, maintenant, c'est vraiment sortir du... des réseaux sociaux, sortir de mon audience, sortir entre guillemets de mon aura, pour essayer de conquérir finalement un peu monsieur, madame, tout le monde qui a la flemme dans une salle de sport mais qui ne connaît pas encore TSE, quoi.
Et comment t'y parviens, ça, au-delà du bouche à oreille?
Ça, c'est dur. Ça, c'est tout l'enjeu. On se penche dessus depuis pas si longtemps que ça, parce que c'est pareil, tout ce qui est... awareness, tout ça, c'est...
Acquisition. Il y a plein de leviers différents. Ouais.
Plein de leviers, donc on s'entoure de personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas, donc on leur fait confiance là-dessus, mais on est vraiment en train d'essayer de construire une stratégie là-dessus. Parce que jusqu'à présent, je ne dirais pas que c'était décousu, mais ce n'était pas non plus méga cousu. Donc on essaye, mais on n'a pas encore malheureusement tous les secrets.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on continue à apprendre finalement chaque jour.
Totalement. Et c'est aussi pour ça, tu vois, qu'on fait notamment des événements physiques, etc. Et évidemment, il y a une grosse partie de la communauté qui nous rend visite à chaque fois, mais c'est aussi un des moyens pour essayer d'asseoir un petit peu la notoriété et finalement de se faire connaître au-delà des features, quoi.
J'adore.
Oui.
Est-ce que tu as connu des échecs, entre guillemets, ce que toi, en tout cas, tu as vécu comme étant un échec?
Alors, échec cuisant, pas forcément. Par contre, des périodes difficiles, oui. Même sur les réseaux, hein, avant l'entrepreneuriat. Bon, même si être sur les réseaux, c'est entreprendre quelque part. Mais oui, j'en ai connu. Sur les réseaux sociaux, bah, des périodes de down parce que... Bah, l'algo, il n'était pas favorable, mais en réalité, c'est pas parce que l'algo, il a changé, parce que pendant que l'algo, il change, il y en a pour qui ça marche, tu vois. C'est parce que, bah, potentiellement, ton contenu, il se renouvelle pas assez, ou que, bah, ce que tu proposes correspond plus à ta communauté. Bien sûr que j'en ai connu, et, mais c'était pas facile, tu vois, c'était pas facile, et puis, la roue tourne toujours, si on veut bien qu'elle tourne, mais des périodes difficiles, on en a tout le temps. Je te dis, à l'époque, c'était, bah, parce que potentiellement, tes vidéos, bah, plus personne n'avait envie de les regarder. Et puis aujourd'hui, c'est parce que bah, tu as une équipe à gérer et que bah, c'est compliqué au quotidien, tu vois. C'est... Mais t'en as tout le temps.
Il y a des business que vous n'avez pas lancés ou que vous avez avorté
Non. Dans lesquels on se serait projeté, non.
Okay.
Parce que comme je te dis, on a toujours été passionnés par des business qui gravitent autour vraiment de notre passion. Tu vois, il y a des trucs, on m'a déjà proposé par exemple de lancer un business de cosmétiques. Et ça, c'était vers quoi? Vers 2020-2021, parce que bah, j'adore ça et que c'est un milieu qui me passionne à moindre mesure, tu vois, mais j'aime bien. Sincèrement, ça m'aurait tenté, tu vois, si ça avait été en 2015, à une époque où je parlais beaucoup plus lifestyle à ma communauté. Là, je me serais presque laissé tenter par impulsivité. Mais bon, non, je me suis pas lancée dedans parce que ça faisait pas de sens, quoi. Ouais.
C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, ce que je te disais au début, je suis assez impressionnée par la cohérence dans tout ce que tu entreprends. Après, la limite, hein, en tout cas, qu'on peut potentiellement voir, c'est est-ce que tu te lasses pas d'évoluer dans un seul et même milieu? Est-ce que tu te sens pas enfermée?
C'est marrant parce que je pourrait l'être, et des fois ça peut l'être, et pour autant non. Bah, tu vois, par exemple, ne serait-ce que ma propre pratique sportive, elle a énormément évolué avec le temps, puisque avant de lancer TSE, je m'entraînais en salle de sport, donc j'étais à fond muscu, et c'est là que j'ai un peu cultivé finalement mon image de fit girl, comme on disait à l'époque, puis entre guillemets à l'américaine, tu as des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, cette image, elle a complètement changé, alors pourtant, on a toujours la même personne derrière, notamment grâce ou à cause des lives du confinement. Aujourd'hui, bah, je m'entraîne, alors, entre guillemets, chez moi, certes, notre gym, elle est très bien équipée, mais ça n'en demeure pas moins qu'on va plus en salle de sport, tu vois. Ouais. Et je m'entraîne uniquement avec nos vidéos. C'est du format circuit training, des cours collectifs, plus rien à voir, tu vois. Et en fait, ma pratique sportive, ma vision du sport, ma vision bah, finalement de mon lifestyle, elle a énormément évolué avec le temps. Et c'est aussi finalement un peu cette expérience-là que j'essaie de retranscrire dans notre business, dans les valeurs qu'on partage et ce qu'on a envie de proposer aux gens. Donc, même si c'est assez réducteur d'un côté, de l'autre, en fait, ça évolue énormément aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore exploré tout ce qu'on a à faire. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant d'être complètement blasé. Je nous le souhaite, en tout cas.
Tant mieux, je le souhaite aussi. C'est vrai que ton activité est quand même très liée à l'apparence physique, à l'image.
Ouais.
Je te suis depuis quelques temps déjà, depuis plusieurs années. Donc, je sais que tu as souvent pris la parole sur le sujet.
Ouais.
Que t'as souvent été victime de haine, hein, disons-le clairement, voire de harcèlement.
Ouais.
Comment tu l'as vécu? Comment tu fais pour le dépasser? C'est très dur, quoi, quand ça touche en plus personnellement, quoi, à soi.
Ouais, ben c'est vrai qu'en plus le fitness c'est un milieu qui est assez ambigu et parfois même un peu curieux parce que quelque part finalement c'est très lié au culte du corps, à l'apparence, etc. Et pour autant ça a finalement la contrepartie de te faire énormément de bien si en tout cas tu le pratiques sainement, on va dire. Et tu vois, j'attendais que tu me poses la question presque. Tu vois,
t'as attendu longtemps, mais je l'ai posé.
J'ai attendu longtemps, mais tu l'as posé. C'est vrai qu'on est souvent nombreuses à commencer pour les mauvaises raisons et à continuer pour les bonnes, tu vois. Et moi, ça a été mon cas. J'ai commencé, pas forcément une mauvaise raison, mais tu vois, quand je suis tombée vraiment dans cette passion du fitness, c'était aussi parce que ça te donne le pouvoir de transformer ton corps, d'en faire ce que tu veux, etc. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ce que j'ai en tête. Tu vois, aujourd'hui, bah, mon corps, il est ce qu'il est. Pour les trois quarts des gens, je suis persuadée qu'il est très bien. Et puis, bah, moi, il y a toujours des choses que, entre guillemets, j'aimerais changer. Et pour autant... En fait, non, j'ai pas envie de les changer parce que je suis en phase avec ma pratique, je suis en phase avec comment je le vis et ça me va très bien. Et tu vois, quand en fait t'arrives à cette maturité, ben finalement tous les regards extérieurs, les critiques et puis comme tu dis parfois même le harcèlement que tu peux subir, ben ils te touchent plus. Et je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai commencé les réseaux très jeune il y a tellement longtemps que finalement tout ça a fini un peu par me créer entre guillemets une carapace et qui est sincère. Quand je lis un commentaire, des fois je lis les commentaires mais ils sont odieux, tu vois. Ben alors ils peuvent m'énerver, mais ils vont pas me toucher, tu vois, ils vont pas me déstabiliser, ils vont pas me faire perdre confiance en moi parce que bah, parce que finalement je connais mes qualités, je connais mes défauts, mais je suis en phase avec ça, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que c'est un milieu où où t'es censé te faire du bien et te construire une image de toi qui est positive. Et puis en contrepartie, t'as des gens qui sont là pour te descendre, surtout sur les réseaux sociaux. C'est violent. Hein.
C'est violent, là. Tu sais, je voyais les résultats du dernier, de la dernière enquête du Haut Conseil à l'égalité. Et ça portait sur le sexisme sur Internet et sur voilà, le digital.
Ouais.
Et en fait, les chiffres étaient assez catastrophiques. Et je crois que seulement 8% des youtubeurs sont des youtubeuses. Plus de 50% des commentaires laissés à des femmes sont liés à leur apparence physique et sont méchants.
Et combien sont donnés par des hommes ?
Et combien sont... Alors ça, je crois qu'il n'y avait pas le chiffre, mais c'est de l'ordre de 80-90. Après, il y a de la misogynie intériorisée. Hein. Il y a quand même des femmes qui, malheureusement, vont critiquer le physique des autres femmes parce qu'elles ont tellement intégré les injonctions qu'elles-mêmes les perpétuent. Ah, mais tu vois, moi, c'est une limite. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même moins le cas aujourd'hui, mais je pense, et tu l'as d'ailleurs toi dit aussi plusieurs fois, et je pense que t'as raison, mais on a le droit de vouloir changer son corps. Enfin, on n'est personne, en fait, pour décréter le contraire. Mais l'écueil que je trouve parfois dans le milieu du fitness, notamment en France, c'est de capitaliser sur les complexes pour faire vendre.
C'est vrai.
Et ça, je sais pas comment vous trouvez vous-même l'équilibre, mais en fait, on a vite fait de faire des vidéos brûle-graisse.
Totalement.
Et en fait, c'est là où je vois la limite, c'est essayer d'attirer les gens par ce prisme-là, c'est quand même les faire complexer sur le fait qu'ils ont de la graisse alors qu'ils pourraient s'en foutre. Après, s'ils veulent eux-mêmes changer leur corps, très bien. Mais je trouve ça dommage qu'on cherche encore, on va dire, à les convaincre par ce prisme-là.
Alors, c'est vrai que c'est surtout dans le fitness, les désespoirs fait vendre. Il n'y a rien de plus vrai, je pense. Moi, j'ai vu des trucs. Et pourtant, on y est tous, entre guillemets, pas obligés, mais presque. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui... Alors, ça dévie un peu de la question, mais c'est un exemple qui est quand même assez typique. On propose des séances qui sont ultra variées, haut du corps, bas du corps, abdos, cardio, renfo, tout ce que tu veux. Et pour autant, t'as beau le promouvoir, expliquer qu'il faut tout travailler, etc. Statistiquement, les gens font les trois quarts du temps des abdos du cardio.
Ah ouais.
Bien sûr. Et donc, si tu veux, c'est difficile de s'en détacher aussi complètement. Parce qu'est-ce que tu veux promouvoir, expliquer les valeurs que tu veux partager, et puis il y a finalement ce que les gens recherchent aussi.
Ouais.
Et nous, chez TSE, on essaye finalement de conjuguer les deux, conjuguer entre guillemets ce qui fait vendre. Et ce qui fait vendre, c'est ce que les gens recherchent concrètement, parce que c'est ce qu'ils veulent trouver, avec ce qu'on estime, nous, en tant que coach et voilà, personnes qui voulons leur inculquer des bonnes valeurs, ce qu'on estime être bon pour eux. Mmh. Et on essaye vraiment de conjuguer les deux. Et c'est vrai que, évidemment, tu as toujours une part de marketing chez nous aussi, très clairement. Et le marketing fait vendre, c'est indéniable. Et c'est pour ça qu'on travaille autant l'univers de nos programmes aussi, même au-delà, tu vois, de faire vendre parce que c'est fait pour maigrir. Il y a toujours un univers, il y a toujours une ambiance, il y a, voilà, parce que c'est du marketing. À l'arrivée, ça reste des sens de sport, tu vois. Mmh. Mais tout ça fait partie du marketing. Mais derrière, quand quelqu'un, je pense, arrive chez TSE pour maigrir, ben derrière, en fait, il découvre une autre facette du sport qui le fait rester pour autre chose. Et tu vois, j'avais fait un sondage il y a quelques temps, justement, sur mes réseaux, où je demandais, ben voilà, aux filles qui me suivaient et qui étaient abonnées chez TSE, pourquoi elles étaient chez nous. Bah, tu sais que la partie des gens qui étaient là pour mincir, elle était super faible. Et t'en as plein qui répondaient, bah, parce qu'en fait, j'ai gagné en bien-être, parce que ça me fait du bien, parce que ça m'aide à extérioriser à la fin de ma journée, X raisons, tu vois. Mmh. Et en fait, je pense que les gens rentrent pour le marketing ou parce qu'ils veulent mincir ou pour des complexes, mais restent pour le bien-être.
Mmh.
Et c'est peut-être ce qui fait la différence finalement avec un programme qui va être ultra vendeur, ultra alléchant, moins 10 kilos en 3 mois garantis. Bah ouais, tu le fais une fois, mais tu le fais plus parce qu'au final, c'est pas ça qui fait que tu fais du sport toute une vie, tu vois.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis que généralement, c'est pas pérenne, donc c'est contre-productif.
Absolument.
Comment t'aimerais évoluer ? Je peux pas te poser la question où est-ce que t'aimerais être dans 10 ans, mais plutôt quel version de toi tu aimerais être dans 5 ans ?
5 ans, c'est proche encore quand même.
Ouais, ouais, ouais. Mais on peut faire beaucoup de choses. Regarde-toi, il y a 5 ans, c'était pas la même vie. Hein.
Non, c'est. Ah, bah, franchement, si j'ai
voulu.
Si ça se passe aussi bien, je suis contente, tu vois. Okay. Ben, j'espère en tout cas que nos business vont continuer de croître, mais croître sereinement. Tu vois, comme je te disais, d'essayer de se retrouver dans une espèce de rythme de croisière qui pour nous sera aussi un petit peu plus confortable. J'aimerais que Trendsweated dépasse un petit peu les frontières du social media et finalement devienne un petit peu une institution dans le sport, mais une institution positive. Tu vois, j'adorerais, j'en sais rien moi, qu'on ait peut-être des studios physiques où les gens peuvent se rendre, qu'on ait des boutiques avec nos collections où les femmes peuvent essayer les tenues, etc. Aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, mais toujours avec les valeurs qui nous sont chères et que ça ne change pas. Et moi, à titre personnel, j'aime m'impliquer dans nos projets. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite toujours faire. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais gagner un peu en confort de vie. Ça, je vais pas dire l'inverse. Donc c'est un petit peu mon objectif, 5 ans.
Okay.
Et c'est améliorer ces points-là. Ouais.
Vous avez des velléités internationales ?
Alors oui, tu m'apprends un mot, tu vois.
Velléité, c'est un joli mot. Hein.
C'est un très beau mot. On se pose la question, pour te dire la vérité. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas prêt. Et là, tu vois, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur les autres business.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas prêt à se lancer là-dedans. Et on a assez de recul pour savoir quand il ne faut pas y aller.
Ouais, c'est ça aussi l'ambition, j'ai envie de dire. C'est savoir quand on est prêt et quand on l'est pas, quoi. Et
totalement.
Là, pour avoir un ordre d'idée, parce que je sais pas ton avis, mais je trouve qu'il y a un peu une opacité en France sur les chiffres, etc. Alors que, somme toute, je trouve que c'est juste inspirant pour la plupart. Quel est le chiffre d'affaires en fourchette que TSE, alors je sais pas si c'est le nom des trois entités ou s'il y a une structure pour les trois.
Oui,
mais
on a trois entreprises différentes.
Trois entreprises différentes.
Trois entités différentes.
Ouais.
Y a,
et en gros, les trois. En gros, les trois, approximativement, c'est quel chiffre d'affaires aujourd'hui ?
Alors, ça dépend des business.
Ouais.
Il y en a où, tu vois, Athletics, on est à peine rentable.
Ouais,
il y a des périodes où quand tu recrutes et là, tu te dis, mais attends, là, en fait, on n'aura même pas assez d'euros pour payer les gens qui arrivent, il va falloir en vendre des leggings.
Ouais.
Il y en a où ça allait beaucoup plus sur TSE.
Ouais.
Effectivement, on n'a jamais communiqué sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. C'est des belles sommes. C'est des belles sommes. On va pas dire l'inverse.
Et c'est rentable à 100%.
Oui, sur l'application.
A toujours été rentable.
L'application, en tout cas, oui. Les fringues, non. Quand on a lancé clairement rentable, l'application, oui.
Okay.
Enfin, si tant est qu'on a mis de l'argent et rapidement, ça l'a été.
Okay.
Et comme je disais, c'est aussi parce que finalement, on est allé petit à petit. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est pas voir trop grand. Trop vite. Commencer petit, on a commencé avec un site pourri, ça nous a pas empêché 3 ans après d'avoir une super app, tu vois.
Ouais.
Donc faire les choses aussi progressivement et dans l'ordre. Aujourd'hui, évidemment, c'est un beau chiffre d'affaires. C'est aussi, comme tu le sais, beaucoup de charges, beaucoup de monde à payer.
Oui.
Non, mais en fait, on réinvestit aussi beaucoup, tu vois.
C'est ça l'écueil, je pense, et ce pourquoi en France on est frileux de communiquer sur des chiffres. C'est si on dit qu'on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, les gens se disent. Oh, elle est millionnaire,
oui.
Je sais pas quoi. Bah attends, non, mais gars, ça va pas dans ma poche.
Évidemment qu'on a un beau rythme de vie et qu'aujourd'hui,
oui,
je vis pas comme quand je me suis lancée, que je gagnais 800 euros à la fin du mois, tu vois. C'est une évidence.
Mais, tu vois, pour moi, c'est pas le sujet, tu vois. Genre, moi, quand on parle des chiffres d'affaires de boîtes, en fait, c'est indépendant de ta personne. C'est juste pour dire, en fait, voilà, vous avez lancé des business, t'as lancé un business toute seule avec ton mec, from scratch. Trois ans plus tard, ça fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez recruter des gens.
Totalement.
Et c'est ça qui est cool, tu vois.
Et au final, tu vois, j'ai l'impression que notre réussite, le seul endroit où elle sera dit, c'est notre maison.
Ouais.
C'est acheter une belle maison.
Oui,
ça
j'ai vu sur YouTube. Ouais.
Voilà, ça a changé notre mini appart parisien qui pourtant nous coûtait bien cher déjà à l'époque.
Mais je pensais que tu avais toujours été dans le sud.
En fait, je suis née dans le sud.
Ouais.
J'ai toujours conservé un appartement dans le sud.
Okay.
Tout petit parce qu'il était en face de chez ma mamie et que même quand on était à Paris, je faisais des allers-retours pour voir ma grand-mère notamment, pour ma famille. Mais on a passé 5-6 ans avec Tini, on va dire la plupart de l'année sur Paris. Ouais.
Ah ouais, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu déménager total dans le sud ?
Comme beaucoup.
Ah ouais, ouais.
Non, okay. Et la raison, c'est lié
au confinement.
Confiné
à Paris ?
Ouais, horrible. Ouais, on a fait les lives dans notre petit appart parisien.
Putain, la loose, alors que t'as vu la vase qui attendait au bord de la mer. Quoi.
Mon père, il était noir de bronzage dans le jardin tous les après-midi et nous, on voyait même pas la lumière de soleil. On avait un vis-à-vis comme ça, c'était horrible. Oui, on avait des abonnés qui habitaient en face, ils nous avaient collé un mot sur les fenêtres en mode « Si, si,
bon
Tini, à fond !»
Ah, j'adore.
C'était trop rigolo. Ah, ouais. Et le confinement, et surtout aussi, en fait, le fait que Tini ait pu, bah, grâce au développement de l'entreprise, donc tu vois, c'est aussi à ça que ça le permet, c'est ce que ça permet de quitter son job. Et là, bah, le fait finalement d'être à notre compte tous les deux, on a pu déménager et aller dans le sud.
Ok, trop bien.
Parce que c'était pas le cas bah, quand tu étais employé, quoi.
Ouais, bon, écoute, on a balayé, je pense, la plupart des sujets que je voulais balayer. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent?
Alors, un en particulier, ça va être dur d'en citer. Moi, c'est vrai que j'aime bien écouter ce genre de contenu, surtout pour les podcasts, plus que le lire, pour dire la vérité, parce que je lis tard le soir, et du coup, la lecture, c'est plutôt les romans, et je fais trois pages par soir. Tu vois,
same, pareil. Voilà.
Je me lance pas dans des trucs, tu vois, trop
philosophiques.
Non,
sinon, tu relis trois fois la même chose, genre.
Exactement, non, ce serait impossible. Mais par contre, j'aime bien écouter des podcasts, et je trouve que c'est important de se nourrir, justement, de l'expérience des autres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écouter finalement les conseils de personnes qui ont de l'expérience. Et finalement, à chaque fois, tu te dis, on me l'avait dit, j'ai pas écouté, mais en fait, cette personne, elle avait raison. Et est-ce que toi, tu vas conseiller aux autres? Voilà, les gens qui sont novices vont pas forcément t'écouter, vont faire leurs erreurs et c'est la vie. Mais je trouve ça intéressant.
Je suis obligée de te demander, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais entendu ou qu'on t'aurait donné que tu as regretté de pas avoir suivi?
Et bah, tu vas, ça va être horrible alors que. Notre équipe, je l'adore en plus, mais ça va rejoindre l'humain encore une fois. Ma mère m'avait dit recruter le minimum parce que l'humain, c'est le plus dur. Et puis c'était à l'époque où on était genre 4 et je te dis, on travaillait vraiment mais comme des chiens, c'était horrible. Et moi, j'ai pas écouté parce que je me suis dit, si on veut grossir, faut qu'on recrute, on va jamais y arriver, tu vois. Et avec le recul, là où elle a raison, c'est qu'aujourd'hui, on recrute moins mais mieux. Okay. Voilà, donc ça c'est important aussi. Bien s'entourer, ça rejoint en fait, que ce soit les recrutements ou s'associer, ou même le support aussi, être entouré de personnes qui nous supportent, c'est important.
Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre?
J'aimerais bien écouter le parcours pour le coup plus professionnel de Heidi Sommers, qui est donc la fondatrice de Buff Bunny, une marque d'activewear pour le coup. Elle est canadienne, mais bon, elle habite aux États-Unis. Et voilà, son compagnon est ultra successful aussi dans le domaine de l'activewear, etc. Ils en ont fait plein que j'ai écouté et qui souvent surfent peut-être un peu plus sur leur vie personnelle que professionnelle. Et je pense qu'ils ont, à mon avis, un parcours qui est très inspirant. Donc, tu vois, bon, faut que tu parles bien anglais.
Ok, I'll try.
Mais, ça serait très intéressant.
Ok, ouais. Trop cool. Est-ce qu'il y a des sujets que tu n'abordes pas et que tu aimerais aborder, ou tu vois, j'ai envie de te dire, en interview, j'imagine qu'on te pose toujours les mêmes questions, voilà, parce que tu es connu pour ce côté sportif entrepreneurial. Est-ce que parfois tu te dis, on ne me parle pas assez de ça, ou j'aimerais parler plus de ça?
Bah, tu vois, c'est vrai que souvent, ça peut être les mêmes questions qui reviennent, et généralement, disons que ça gratte quand même relativement la surface. Et avant de venir, j'ai dit à Tini, je suis curieuse de voir les questions que Louise va me poser, et j'espère que ça ira un petit peu plus loin que d'habitude, et ça a été le cas. Donc, good job.
Ah bah, merci.
Parce que, bah, voilà, on a abordé plein de sujets, et notamment bah, les difficultés. Finalement, c'est vrai que j'en parle assez peu souvent, parce qu'on me pose assez peu souvent la question, ou du moins pas très en profondeur. Et aujourd'hui, ça a pu être le cas. Donc, si ça peut aider ou peut-être rassurer aussi d'autres qui seraient dans la même situation, ben, j'espère que ça sera
puis,
le cas.
En fait, on apprend tellement plus des erreurs. C'est fou, mais en fait, c'est comme ça qu'on progresse.
Totalement.
C'est, si jamais tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas t'améliorer. Donc, même si sur le moment, tu as le seum, t'es en mode, je n'ai pas envie de m'améliorer, j'ai juste envie que ce soit facile.
Ouais.
En fait, avec le recul, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, tu penses, tes erreurs? Quelles compétences tu as gagnées grâce aux erreurs que tu as effectuées?
La patience, le recul et... mettre de côté l'impulsivité et avoir un peu plus de raisonnement. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de méga impulsif, mais un peu quand même. Et tu vois, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment il y a 3 ou 4 ans, que j'ai fait différemment au début de notre business. Aujourd'hui, tu vois, je mets mon ego de côté, je mets mon amour propre de côté et c'est entre guillemets business first. Si c'est bénéfique pour le business, moi, je te dis, j'ai, entre guillemets, j'ai pas d'ego. Je suis prête à voilà, écouter, à essayer de comprendre, à avoir de la patience là où j'en aurais jamais eu, tu vois. On parle de fournisseurs, choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est vrai que bah, tu l'acquiers, je pense, avec le temps parce que tu te rends compte que finalement, la méthode dure, entre guillemets, elle marche pas mieux. Donc, ouais, ça t'apprend vraiment la patience.
Trop cool. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Ben, tu sais quoi, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est être en phase avec ses aspirations. C'est vraiment, en fait, le plus important, je pense que pour être heureux, il n'y a pas de recette magique, mais c'est juste réussir à conjuguer finalement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait réellement. Je pense qu'il y a trop de gens qui passent toute une vie à être, ben, tu vois, dans des rêves, dans des aspirations, etc., et finalement à jamais le concrétiser. Ou à l'inverse, tu vois, à presque culpabiliser parce que les autres font et que, ben, eux non, tu vois. Et en fait, je pense que dans la vie, il faut juste être en phase avec soi-même, être en phase et être lucide, en fait, finalement, de qu'est-ce qui nous rend heureux. Est-ce que être heureux, c'est bosser comme un acharné, être patron 3 entreprises? Ou est-ce que heureux, ben non, en fait, c'est juste finalement avoir un job où à 5 heures, t'es avec ta famille et tu kiffes avec tes enfants et tu vas balader ton chien, tu vois. Est-ce qu'être heureux, ben tu vois, pour parler de sport, c'est finalement passer 2 heures par jour ou même 40 minutes à sculpter son corps? Ou est-ce qu'être heureux, ben c'est juste en avoir rien à foutre et l'accepter et être bien dans sa peau, tu vois. Et je pense que ça, c'est la question cruciale qu'il faut se poser. Et moi, c'est une question que je me suis pas forcément posée parce que ça s'est un peu fait naturellement dans ma vie, mais que je me pose aujourd'hui. Et je me dis, bah, tu vois, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne me rend pas heureux, qui n'est pas en phase avec ce que je veux, bah, faut l'arrêter, en fait. Tu vois, et il ne faut pas forcer, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie perso. Et je pense que c'est le plus important et je pense que ça vient avec la maturité, tu vois.
C'est une très belle définition. Merci beaucoup, Cici. Écoute, c'était hyper cool. Merci. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses.
Et donc, merci, Louis. C'était un vrai plaisir.
C'était hyper cool. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, sur tous tes business, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Alors, mes propres réseaux, Cici Mua un petit peu partout. Team Train Sweat It pour l'application, TSE Athletics et TSE Nutrition pour nos business donc d'activoire et de compléments alimentaires.
Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes et puis bah, j'espère à très vite.
Merci beaucoup.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @cicimua et @mybetterself, et envoyer un petit message à Cici si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.